When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Section 5 de Le dossier 113 par Émile Gaborio. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 5. Pendant que sa vie entière était l'objet des plus minutieuses investigations, Prosper était en prison, au secret. Les deux premières journées ne lui avaient pas paru trop longues. On lui avait, sur ses instances, donné quelques feuilles de papier, numérotées, dont il devait rendre compte. Et il écrivait avec une sorte de rage des plans de défense et des mémoires justificatifs. Le troisième jour, il commença à s'inquiéter de ne voir personne que les condamnés employés au service des secrets et le geôlier, chargé de lui apporter ses repas. « Est-ce qu'on ne va pas m'interroger de nouveau ?» demandait-il chaque fois. « Votre retour viendra, allez !» répondait invariablement le geôlier. Et le temps passait, et le malheureux torturé par les angoisses du secret, qui brise les plus énergiques natures, tombait dans le plus sombre désespoir. « Suis-je donc ici pour toujours ? » s'écriait-il. Non, on n'oubliait pas, car le lundi matin, à une heure où les geôliers ne venaient jamais, il entendit grincer les verrous de la cellule. D'un bond, il se dressa et courut vers la porte. Mais, à la vue d'un homme à cheveux blancs, debout sur le seuil, il fut comme foudroyé. « Mon père ! » balbutia-t-il. « Mon père ! Oui, votre père !» À la stupeur première de Prosper, un sentiment de joie immense avait succédé. C'est qu'un père, quoi qu'il arrive, est l'ami sur lequel on doit compter. Aux heures terribles, lorsque tout appui manque, on se souvient de cet homme sur lequel on s'appuyait étant enfant. Et alors même qu'il ne peut rien, sa présence rassure comme celle d'un protecteur tout-puissant. Sans réfléchir, entraîné par un élan d'effusion attendrie, Prosper ouvrit les bras comme pour se jeter au cou de son père. Monsieur Bertomy le repoussa durement. « Éloignez-vous, ordonna-t-il. » Il s'avança alors dans la cellule dont la porte se referma. Le père et le fils étaient seuls en présence. Prosper, brisé, anéanti. Monsieur Bertomy, irrité, presque menaçant. Repoussé par ce dernier ami, un père, le malheureux caissier parut se roidir contre une douleur atroce. « Vous aussi » s'écria-t-il. « Vous ? Vous me croyez coupable ? Épargnez-vous une comédie honteuse, interrompit Monsieur Bertomy. Je sais tout. Mais je suis innocent, mon père. « Je vous le jure par la mémoire sacrée de ma mère !»« Malheureux !» s'écria M. Bertomy. « Ne blasphémez pas !» Un irrésistible attendrissement le gagna, et c'est d'une voix faible, presque inintelligible, qu'il ajouta. « Votre mère est morte, Prosper, et je ne savais pas qu'un jour viendrait où je bénirais Dieu de me l'avoir enlevée. Votre crime l'eût tué. » Il y eut un long silence. Enfin Prosper reprit. « Vous m'accablez, mon père, et cela au moment où j'ai besoin de tout mon courage. » Au moment où je suis victime de la plus odieuse machination. Victime ? Fit M. Bertomy. Victime ? C'est-à-dire que vous essayez de flétrir de vos insinuations l'homme honorable et bon qui a pris soin de vous, qui vous a accablé de bienfaits, qui vous avait assuré une position brillante, qui vous préparait un avenir inespéré ? C'est assez de l'avoir volé. Ne le calomniez pas. Par pitié, mon père, laissez-moi vous dire. Quoi ? Vous aligniez peut-être les bontés de votre patron ? Vous étiez cependant si sûr de son affection qu'un jour m'avait écrit, me disant de me préparer à faire le voyage de Paris pour demander à M. Faubel la main de sa nièce. Est-ce donc un mensonge ? Non, répondit Prosper d'une voix étouffée. Non, il y a un an de cela. Vous aimiez Mademoiselle Madeleine, alors du moins vous me l'écriviez. Mais je l'aime, mon père, plus que jamais. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. M. Bertomy eut un geste de méprisante pitié. Vraiment ? S'écria-t-il. Et la pensée de la chaste et pure jeune fille que vous aimiez ne vous arrêtait pas au seuil de la débauche ? Vous l'aimiez ? Comment donc osiez-vous, sans rougir, vous présenter devant elle en quittant les flétrissantes compagnies qui étaient les vôtres ? Au nom du ciel, laissez-moi vous expliquer par quelle fatalité, Madeleine ?
Assez, monsieur, assez !
Je sais tout, je vous l'ai dit. J'ai vu votre patron hier. Ce matin, j'ai vu votre juge, et c'est à sa bonté que je dois d'avoir pu pénétrer jusqu'à vous. Savez-vous que j'ai dû, moi, me laisser fouiller, déshabiller presque, pour entrer ici ? On pensait que je vous apportais une arme. Prosper n'essayait plus de lutter. Il s'était laissé tomber, désespéré, sur le tabouret de sa prison. J'ai vu votre appartement, et j'ai compris votre crime. J'ai vu des tentures de soie à toutes les portes, et des tableaux à cadres dorés le long de tous les murs. Chez mon père, les murs étaient blanchis à la chaux, et il n'y avait qu'un fauteuil dans la maison, celui de ma mère. Notre lutte, c'était notre probité. Vous êtes le premier de la famille qui ayez eu des tapis d'Aubusson. Il est vrai que vous êtes le premier voleur qui se soit trouvé dans notre famille. » À cette dernière insulte, le sang afflua aux joues de Prosper. Cependant, il ne bougea pas. « Mais il faut du luxe maintenant, » poursuivait M. Berthomy, s'animant et s'exaltant au bruit de ses paroles. « Il faut du luxe à tout prix. On veut l'opulence insolente et le faste du parvenu avant d'être parvenu. On entretient des maîtresses qui portent des mules de satin doublées de cygnes, comme celles que j'ai vues au pied de votre lit. Et on a des domestiques en livrée. Et on vole. Et les banquiers en sont venus à n'oser plus confier à personne la clé de leur caisse. Et tous les matins, quelques vols inattendus couvrent de boue des familles honorables. » Monsieur Berthomy s'arrêta brusquement. Il venait de s'apercevoir que son fils paraissait hors d'état de l'entendre. « Brisons-la, » reprit-il. « Je ne suis pas venu ici pour vous faire des reproches. Je suis venu pour sauver, s'il se peut, quelque chose de notre honneur. Pour empêcher qu'on imprime notre nom dans les journaux judiciaires, parmi les noms des voleurs et des assassins. Levez-vous et écoutez-moi. » À la voix impérieuse de son père, Prosper se dressa tout d'une pièce. Tant de coups successifs le réduisaient à cet état d'insensibilité farouche du misérable qui n'a plus rien à redouter. « Avant tout, commença M. Berthomy, combien vous reste-t-il encore des 350 000 francs que vous avez volés ?»«
Encore une fois, mon père, » répondit l'infortuné avec un accent d'affreuse résignation. « Encore une fois, je suis innocent. »
Soit, je m'attendais à cette réponse. Ce sera donc notre famille qui réparera le préjudice causé par vous à votre patron.
Comment ? Que voulez-vous dire ?
Le jour où il a appris votre crime, votre beau-frère est venu me rapporter la dot de votre sœur, 70 000 francs. J'ai pu réunir de mon côté 140 000 francs. C'est en tout 210 000 francs que j'ai là, sur moi, et je vais les aller porter à M. Fauvel. Cette menace tira Prosper de son anéantissement.
Vous ne ferez pas cela ! S'écria-t-il avec une violence mal contenue.
« Je le ferai avant la fin de la journée. Pour le reste de la somme, M. Fauvel m'accordera du temps. Ma pension de retraite est de 1500 francs. Je puis vivre avec 500. Je suis encore assez fort pour remplir un emploi. De son côté, votre beau-frère... » M. Berthomy s'arrêta court, épouvanté de l'expression de la physionomie de son fils. Une colère si furieuse qu'elle tournait à la folie contractait ses traits. Ses yeux, tout à l'heure éteints, lançait des éclairs. « Vous n'avez pas le droit, mon père, » s'écria-t-il. « Non, vous n'avez pas le droit d'agir ainsi. Libre à vous de refuser de me croire. Il vous est interdit de tenter une démarche qui serait un aveu et me perdrait. Qui vous assure que je suis coupable ? Quoi ? Lorsque la justice hésite, vous, mon père, vous n'hésitez pas ? Et plus impitoyable que la justice, vous me condamnez sans m'entendre ?
Je remplirai mon devoir. C'est-à-dire que je suis au bord de l'abîme et que vous allez m'y précipiter.
Est-ce là ce que vous appelez votre devoir ? Quoi ? Entre des étrangers qui m'accusent et moi qui vous crie que je suis innocent, vous ne balancez pas ? Pourquoi ? Est-ce parce que je suis votre fils ? Notre honneur est en péril, c'est vrai. Raison de plus pour me soutenir, pour m'aider à le défendre et à le sauver. »
Prosper avait su trouver de ces accents qui font pénétrer le doute au plus profond des consciences et ébranlent les plus solides convictions. M. Berthomy était ému.
« Cependant, murmura-t-il, tout vous accuse. Ah, mon père, c'est que vous ne savez pas qu'un jour j'ai dû fuir Madeleine. Il le fallait. J'étais désespéré, j'ai voulu m'étourdir. J'ai cherché l'oubli, j'ai trouvé le dégoût et la honte. Oh, Madeleine !»
Il s'attendrissait. Mais bientôt, il reprit avec une violence croissante.
« Tout est contre moi, peu importe. Je saurai me justifier ou périr à la tâche. La justice humaine est sujette à l'erreur. Innocent, je puis être condamné. Soit je subirai ma peine, mais on sort du bagne. »
« Malheureux, que dites-vous ?
Je dis, mon père, que je suis maintenant un autre homme. Ma vie a un but, désormais, la vengeance. Je suis victime d'une machination infâme.
Tant que j'aurai une goutte de sang dans les veines, j'en poursuivrai l'auteur, et je le trouverai. Il faudra bien qu'il expie mes tortures et mes angoisses. C'est de la maison Fauvet, tu parles le coup. C'est là qu'il faut chercher.
Prenez garde, fit M. Berthomy. La colère vous égare.
Oui, je vous comprends. Vous allez me vanter la probité de M. André Fauvel. Vous allez me dire que toutes les vertus se sont réfugiées au sein de cette famille patriarcale. Qu'en savez-vous? Serait-ce la première fois que de beaux semblants d'honnêteté cacheraient les plus honteux secrets? Pourquoi Madeleine m'a-t-elle un jour, tout à coup, défendue de songer à elle? Pourquoi m'a-t-elle exilée, alors qu'elle souffre autant que moi de notre séparation? Alors qu'elle m'aime encore, m'entendez-vous? Bien qu'elle m'aime! J'en suis sûr, j'en ai eu la preuve.
L'heure accordée à M. Berthomy, pour un entretien avec son fils, était à écouler. Le geôlier vint l'en avertir. 1000 sentiments divers déchiraient le cœur de ce père infortuné et lui ôtaient toute liberté de réflexion. Si Prosper disait vrai pourtant, quels ne seraient pas plus tard ses remords d'avoir ajouté à son malheur déjà si grand? Et qui prouvait qu'il ne disait pas vrai? La voix de ce fils, dont si longtemps il avait été fier, avait réveillé en lui toutes les tendresses paternelles, violemment comprimées. Et fut-il coupable, et coupable d'un pire crime? En était-il moins son fils? Sa figure avait perdu toute sa sévérité. Ses yeux étaient brillants de larmes, prêts de s'échapper. Il voulait sortir grave et irrité, comme il était entré. Il n'eut pas ce courage cruel. Son cœur se brisa, il ouvrit les bras et pressa Prosper contre sa poitrine. « Oh, mon fils » murmura-t-il en se retirant. « Puisses-tu avoir dit vrai ?» Prosper l'emportait. Il avait presque convaincu son père de son innocence. Mais il n'eut pas le temps de se réjouir de cette victoire. La porte de la cellule s'ouvrit presque aussitôt après s'être refermée. Et la voix du geôlier, comme la première fois, cria « Allons, monsieur, à l'instruction !» Il fallait obéir quand même. Il obéit. Mais sa démarche n'était plus celle des premiers jours. Un changement complet venait de s'opérer en lui. Il allait le front haut, d'un pas assuré, et le feu de la résolution éclatait dans ses yeux. Il connaissait le chemin maintenant, et il marchait un peu en avant du garde de Paris, qui l'accompagnait. Comme il traversait la petite salle basse, où se tiennent les agents et les gardes de service, il croisa cet homme à lunettes d'or, qui, dans la salle du greffe, l'avait fixé si longtemps. « Du courage, monsieur Prosper Berthomy, lui dit ce personnage. Si vous êtes innocent, on vous aidera. » Prosper, surpris, s'arrêta. Il cherchait une réponse, mais déjà, l'homme était passé. « Quel est ce monsieur ? » demanda-t-il au garde qui le suivait. « Quoi ? Vous ne le connaissez pas ? » répondit le garde d'un air de surprise profonde. « Mais c'est monsieur Lecoq, de la sûreté. »« Qui ça, Lecoq ? Vous pourriez bien dire monsieur, » fit le garde de Paris offensé. « Ça ne vous écorcherait pas la bouche. Monsieur Lecoq est un homme à qui on n'en compte pas, et qui sait tout ce qu'il veut savoir. Si vous l'aviez eu, au lieu de ce mielleux imbécile de Franferlo, votre affaire serait depuis longtemps réglée. Avec lui, on ne languit pas. Mais il a l'air d'être de vos connaissances. Je ne l'avais jamais vu avant le jour où on m'a amené ici. Il ne faudrait pas en jurer, parce que, voyez-vous, personne ne peut se vanter de connaître la vraie figure de Monsieur Lecoq. Il est ceci aujourd'hui et cela demain. Tantôt brun, tantôt blond, parfois tout jeune, d'autres fois si vieux qu'on lui donnerait 100 ans. Tenez, moi qui vous parle, il m'enfonce comme il veut. Je cause avec un inconnu, paf, c'est lui. N'importe qui peut être lui. On m'aurait dit que vous étiez lui, j'aurais répondu. C'est bien possible. Ah, il peut se vanter, celui-là, de faire tout ce qu'il veut de son corps. Le garde de Paris aurait longtemps encore poursuivi la légende de M. Lecoq, mais il arriva à être son prévenu à la galerie des juges d'instruction. Cette fois, Prosper n'eut pas à attendre sur l'humble banc de bois. Le juge, au contraire, l'attendait. C'était M. Patrigean, en effet, qui, en profond observateur des mouvements de l'âme humaine, avait ménagé cette entrevue de M. Berthomy et de son fils. Il était sûr qu'entre le père, cet homme à probité raide, et le fils, accusé de vol, une scène déchirante, lamentable aurait lieu, et il comptait que cette scène briserait Prosper. Il s'était dit qu'il mandrait aussitôt près de lui le prévenu, qu'il lui arriverait les nerfs vibrants d'émotions terribles, et qu'il arracherait la vérité à son trouble et à son désespoir. Il ne fut donc pas médiocrement surpris de l'attitude du caissier, attitude résolue sans roideur, fière et assurée, sans impertinence ni défi. « Eh bien, lui demanda-t-il tout d'abord, avez-vous réfléchi ? N'étant pas coupable, monsieur, je n'avais pas à réfléchir. »« Ah ! » fit le juge, « la prison n'a pas été pour vous bonne conseillère. Vous avez oublié qu'il faut surtout sincérité et repentir, à qui veut mériter l'indulgence des juges. Je n'ai besoin, monsieur, ni d'indulgence ni de grâce. » Monsieur Patrigean ne put retenir un geste de dépit. Il se tut un moment, puis tout à coup. « Que me répondriez-vous » fit-il,
si je vous disais ce que sont devenus les 350 000 francs ?» Prosper secoua tristement la tête. « Si on le savait, répondit-il simplement, je serais en liberté et non pas ici. » Le vulgaire moyen, employé par le juge d'instruction, réussit fort souvent. Mais ici, avec un prévenu si maître de soi, il n'avait guère de chance de succès. Cependant, il l'avait tenté à tout hasard. « Ainsi, reprit-il, vous vous en tenez à votre premier système. Vous persistez à accuser votre patron, lui ou tout autre. Pardon, lui seul, puisque seul il avait le mot. Avait-il à se voler lui-même un intérêt quelconque ? J'ai cherché, monsieur, je ne lui en vois pas. Eh bien, prononça sévèrement le juge, je vais vous dire quel intérêt vous aviez, vous, à le voler. » Monsieur Patrigent parlait en homme sûr de son fait, mais son assurance n'était qu'apparente. Il s'était préparé à frapper d'un dernier coup de massue un prévenu qui lui arriverait pantelant. Il était dérouté de le voir si calme et si déterminé en sa résistance. « Voulez-vous me dire, commença-t-il d'un ton qui se ressentait de son dépit, pouvez-vous me dire combien vous avez dépensé depuis un an ?» Prosper n'eut besoin ni de réflexion ni de calcul. « Oui, monsieur, répondit-il sans hésiter. Les circonstances étaient telles que j'ai apporté le plus grand ordre à mon désordre. J'ai dépensé environ 50 000 francs. Et où les avez-vous pris ? D'abord, monsieur, je possédais 12 000 francs, provenant de la succession de ma mère. J'ai touché chez monsieur Fauvel, pour mes appointements et ma part d'intérêt dans les bénéfices, 14 000 francs. J'ai gagné à la bourse environ 8 000 francs. J'ai emprunté le reste, je le dois, mais je puis le payer, ayant chez monsieur Fauvel 15 000 francs à moi. Le compte était net, précis, aisé à vérifier. Il devait être exact. Qui donc vous prêtait ainsi de l'argent ? Monsieur Raoul de la Gorce. Ce témoin, parti pour un voyage le jour même du vol, n'avait pu être entendu. Force était à monsieur Patrigent de se rapporter, au moins pour le moment, à la déclaration de Prosper. Soit, dit-il, je n'insisterai pas sur ce point. Apprenez-moi pourquoi, malgré les ordres formels de votre patron, vous avez fait prendre l'argent à la banque la veille et non le jour même du remboursement ? C'est que, monsieur de Clamerand m'avait fait savoir qu'il lui serait agréable, utile même, d'avoir ses fonds dès le matin. Il en témoignera si vous le faites appeler. D'un autre côté, je présumais que j'arriverais tard à mon bureau. Ce monsieur de Clamerand est donc de vos amis ? Aucunement. J'ai même ressenti pour lui une sorte de répulsion que rien ne justifie, je le déclare. Mais il est fort lié avec mon ami, monsieur de Lagorce. Pendant le temps assez long, indispensable à Sigolt, le greffier, pour écrire les réponses du prévenu, monsieur Patrigent se creusait la tête. Il se demandait quelle scène avait pu avoir lieu entre monsieur Berthomy et son fils pour transformer ainsi Prosper. « Autre chose, reprit le juge d'instruction, comment avez-vous passé votre soirée la veille du crime ? Au sortir de mon bureau à 5 heures, j'ai pris le train de Saint-Germain et je me suis rendu au Vésinet, à la maison de campagne de monsieur Raoul de la Gorce. Je lui portais 1 500 francs qu'il m'avait demandé et qu'en son absence, j'ai laissé à son domestique. Vous a-t-on dit que monsieur de la Gorce dut entreprendre un voyage ? Non, monsieur, j'ignore même s'il est absent de Paris. Fort bien. Et en sortant de chez votre ami, qu'avez-vous fait ? Je suis revenu à Paris et j'ai dîné dans un des restaurants du boulevard avec un de mes amis. Et ensuite ? Prosper hésita. Vous vous taisez, reprit monsieur Patrigent. Alors je vais vous dire l'emploi de votre temps. Vous êtes rentré chez vous, rue Chaptal, vous vous êtes habillé et vous vous êtes rendu à une soirée que donnait une de ces femmes qui s'intitule artiste dramatique et qui déshonore les théâtres sur lesquels elles se montrent, qui ont 100 écus d'appointement et qui ont des chevaux et des voitures, chez la fille Wilson. C'est vrai, monsieur. On joue gros jeu chez la fille Wilson ? Quelquefois. Du reste, vous avez l'habitude de ces sortes de réunions. Ne vous êtes-vous pas trouvé mêlé à une aventure scandaleuse qui avait eu lieu chez une femme de ce genre, nommée Cressanzi ? C'est-à-dire que j'ai été appelé à déposer, ayant été témoin d'un vol. En effet, le jeu mène au vol. Et chez la fille Wilson, n'avez-vous pas joué au baccarat tournant et n'avez-vous pas perdu 1800 francs ? Pardon, monsieur, 1100 seulement. Soit, vous aviez payé dans la matinée un billet de 1000 francs. Oui, monsieur. De plus, il restait 500 francs dans votre secrétaire. Et quand on vous a arrêté, vous aviez dans votre porte-monnaie 400 francs. Soit en tout, en 24 heures, 4500 francs. Prosper était non pas décontenancé, mais stupéfait. Ne se doutant pas des puissants moyens d'investigation dont dispose le parquet de Paris, il se demandait comment, en si peu de temps, le juge avait pu être si exactement renseigné. « Vos informations sont exactes, monsieur, » dit-il enfin. « D'où venait donc cet argent ? Alors que la veille même, vous étiez assez à court pour remettre le paiement d'une facture peu importante. Monsieur, ce jour que vous dites, j'ai vendu par l'intermédiaire d'un agent de change quelques titres que j'avais, moyennant 3000 francs. J'ai de plus pris, à ma caisse, en avance sur mes appointements, 2000 francs. Je n'ai rien à dissimuler. » Décidément, le prévenu avait réponse à tout. Monsieur Patrigent dut chercher un autre point d'attaque. « Si vous n'aviez rien à cacher, dit-il, Pourquoi ce billet ? Il le montrait. Jeté mystérieusement à un de vos collègues. Le coup, cette fois, porta. Les yeux de Prosper vacillaient sous le regard du juge d'instruction. « Je pensais, balbutia-t-il, je voulais. Vous vouliez cacher votre maîtresse ? Eh bien oui, monsieur, c'est vrai. Je savais que lorsqu'un homme est, comme je le suis, accusé d'un crime, toutes les faiblesses, toutes les défaillances de sa vie deviennent des charges terribles. C'est-à-dire que vous avez compris que la présence d'une femme chez vous donnait un poids énorme à l'accusation. Car vous vivez avec une femme. Je suis jeune, monsieur. Assez. La justice peut pardonner à des égarements passagers. Elle ne saurait excuser le scandale de ces unions, qui sont un défi permanent jeté à la morale publique. L'homme qui se respecte assez peu pour vivre avec une femme perdue n'élève pas cette femme jusqu'à lui. Il descend jusqu'à elle. Monsieur, vous savez, j'imagine, quelle est la femme à laquelle vous laissiez donner le nom honorable porté par votre mère. Madame Gypsy, monsieur, était institutrice lorsque je l'ai connue. Elle est née à Porto et est venue en France à la suite d'une famille portugaise. Le juge d'instruction haussa les épaules. Elle ne s'appelle pas Gypsy, dit-il. Elle n'a jamais été institutrice. Elle n'est pas portugaise. Prosper voulut protester, mais monsieur Patrigent lui imposa silence. Il cherchait parmi toutes les pièces contenues dans un énorme dossier, placé devant lui. « Ah, voilà, fit-il, écoutez. Palmyre Chocareil, née à Paris en 1840, fille de Chocarel, Jacques, employé aux pompes funèbres, et de Caroline Piedlan, sa femme. » Le prévenu eut un geste d'impatience. Il ne comprenait pas que le juge, en ce moment, tenait surtout à lui prouver que rien n'échappe à la police. « Palmyre Chocareil, continua-t-il, a été mise à 12 ans en apprentissage chez un fabricant de chaussures, et elle y est restée jusqu'à 16 ans. Les renseignements font défaut pendant une année. À 17 ans, elle entre en qualité de domestique chez les époux Dombas, épiciers, rue Saint-Denis, et y reste 3 mois. Elle traverse cette même année, 1857, 8 ou 10 places. En 1858, lasse du service, elle entre comme demoiselle chez un marchand d'éventail du passage Choiseul. Tout en lisant, le juge d'instruction observait Prosper, cherchant sur son visage l'effet produit par ses révélations. À la fin de 1858, poursuivit-il, la fille Chocarel entre au service d'une dame Nunes et part avec elle pour Lisbonne. Combien de temps reste-t-elle en Portugal ? Qu'y fait-elle ? Mes rapports sont muets à cet égard. Ce qui est certain, c'est qu'en 1861, elle était de retour à Paris et a été condamnée par le tribunal de la Seine à 3 mois de prison pour coups et blessures. Ah ! Elle rapportait de Portugal le nom de Nina Gypsy. « Mais monsieur, s'écria Prosper, je vous assure. »« Oui, je comprends. Cette histoire est moins romanesque sans doute que celle qui vous a été contée. Elle a le mérite d'être vraie. Nous perdons Palmyre Chocareil, dite Gypsy, à sa sortie de prison. Mais nous le retrouvons 6 mois plus tard, ayant fait connaissance d'un commis voyageur nommé Caldas, qui s'était épris de sa beauté et lui avait meublé un appartement près de la Bastille. Elle vivait avec lui et portait son nom, lorsqu'elle l'a quitté pour vous suivre. Avez-vous, oui, parlé de ce Caldas ? Jamais, monsieur. Cet infortuné aimait tant cette créature qu'à la nouvelle de son abandon, il faillit devenir fou de douleur. C'était, paraît-il, un homme énergique, et il avait juré publiquement qu'il tuerait celui qui lui avait enlevé sa maîtresse. On a lieu de croire que depuis, il s'est suicidé. Ce qui est prouvé, c'est que peu après le départ de la fille Chocareil, il a vendu les meubles de l'appartement et a disparu. Tous les efforts faits pour retrouver ses traces ont été vains. Le juge d'instruction s'arrêta un moment, comme pour bien donner à Prosper le loisir de la réflexion. Et c'est en scandant tous ces mots qu'il ajouta « Voilà la femme dont vous aviez fait votre compagne, la femme pour laquelle vous avez volé. » Cette fois encore, mal servi par les renseignements incomplets de Fanferlot, M. Patrigent faisait fausse route. Il avait espéré arracher un cri à la passion de Prosper, blessé au vif. Point, il restait impassible. De tout ce qu'avait dit le juge, il n'avait retenu que le nom de ce pauvre commis-voyageur qui s'était suicidé, Caldas. « Avouez au moins, insista M. Patrigent, que cette fille a causé votre perte. Je ne saurais avouer cela, monsieur, car cela n'est pas. Elle a cependant été l'occasion de vos plus fortes dépenses. Étonnez, le juge tira une facture du dossier. Dans le seul mois de décembre dernier, vous avez payé pour elle, à un couturier, au sieur Von Koplen, 2 robes de ville, 900 francs, 1 robe de soirée, 700 francs, 1 domino garni de dentelle, 400 francs. Tout cet argent a été dépensé par moi librement, froidement, sans entraînement. » Monsieur Patrigent haussa les épaules. « Vous niez l'évidence, fit-il. Soutiendrez-vous aussi que ce n'est pas pour cette fille que vous avez renoncé à des habitudes de plusieurs années et cessé de passer vos soirées chez votre patron ? Ce n'est pas pour elle, monsieur, je vous l'affirme. Alors pourquoi tout à coup ne plus paraître dans une maison où vous sembliez faire votre cour à une jeune fille dont on vous eût accordé la main? Monsieur Fauvel me l'a dit. Vous l'avez écrit à votre père.
J'ai eu des raisons que je ne puis dire, répondit Prosper dont la voix trembla. Le juge respira. Enfin, il trouvait un défaut à l'armure du prévenu.
Serait-ce mademoiselle Madeleine qui vous aurait éloigné? Demanda-t-il.
Prosper garda le silence. Il était visiblement très agité.
Parlez, insista Monsieur Patrigent. Je dois vous prévenir que cette circonstance est des plus graves aux yeux de la prévention.
Quel que soit le péril du silence, je dois me taire.
Prenez garde, fit le juge. La justice ne saurait se payer de scrupules de conscience.
Monsieur Patrigent se tut. Il attendra une réponse, elle ne vint pas.
Vous obstinez, reprit-il. Eh bien, poursuivons. Vous avez depuis un an dépensé, dites-vous, 50 000 francs. La prévention dit 70 000, mais prenons votre chiffre. Vos ressources sont à bout. Votre crédit est épuisé. Continuer votre genre de vie est impossible. Que comptiez-vous faire?
Je n'avais aucun projet, monsieur. Je m'étais dit ça ira tant que ça pourra. Et après?
Et après, je puiserai à la caisse, n'est-ce pas?
Eh, monsieur, s'écria Prosper, je ne serais pas ici si j'étais coupable. Je n'aurais pas été si sot de retourner à mon bureau. J'aurais fui.
Monsieur Patrigent ne put dissimuler un sourire de satisfaction. Enfin, dit-il, voilà l'argument que j'attendais. C'est précisément en ne prenant pas la fuite, en restant, pour faire tête à l'orage, que vous prouvez votre intelligence. Plusieurs procès récents ont appris aux caissiers infidèles que la fuite à l'étranger est un pitoyable moyen. Le chemin de fer va vite, mais le télégraphe électrique va plus vite encore. La Belgique est à deux pas. À Londres, on retrouve un voleur français en 48 heures par abonnement. L'Amérique même n'est plus un refuge assuré. Prudent et sage, vous êtes resté en vous disant « Je puis m'en tirer, et au pis-aller, si je succombe, après 3 ou 5 ans de réclusion, je retrouverai une fortune. » Bien des gens sacrifieraient 5 ans de leur vie pour 350 000 francs. Mais monsieur, si j'avais fait le calcul que vous dites, je ne me serais pas contenté de 350 000 francs. J'aurais attendu une occasion et volé 1 million.
Oh, fit monsieur Patrigent, on ne peut pas toujours attendre.
Prosper réfléchissait. Et la contraction de ses traits disait l'effort de sa pensée. Monsieur, dit-il enfin, il est un détail que j'ai oublié dans mon trouble, qui me revient à la mémoire et qui peut aider à ma justification. Expliquez-vous. Le garçon du bureau, qui est allé chercher les fonds à la banque, me les a apportés, lorsque je n'attendais plus que son retour pour partir. Je suis sûr, oui, je suis certain, d'avoir serré les billets de banque devant lui. Oh, s'il l'avait remarqué. Dans tous les cas, j'ai quitté mon bureau avant lui.
C'est bien, fit Monsieur Patrigent. Ce garçon sera entendu. On va maintenant vous reconduire à votre cellule, et croyez-moi, réfléchissez.
Si Monsieur Patrigent congédiait ainsi brusquement son prévenu, c'est que ce fait nouveau, qui tout à coup se révélait, l'inquiétait. La déposition du garçon de bureau allait avoir une importance énorme. Que penser si cet homme venait à affirmer qu'il avait vu le caissier refermer les billets et sortir? Était-il impossible qu'il ait été d'avance gagné par Prosper? Dès que le prévenu fut sorti, « Dites-moi, Sigolt, » demanda-t-il à son greffier, « ce garçon de bureau dont parle le prévenu, c'est Antonin, eh bien celui qui n'est pas venu déposer et qui a été excusé sur un certificat du médecin constatant sa maladie. »
« Précisément, monsieur.
Où demeure-t-il ?
« Monsieur, répondit Sigolt, il n'est plus chez lui, m'a dit Fanferlot.
Sa blessure étant grave, et devant le retenir longtemps sur le lit, il s'est fait porter à l'hospice du bois.
Eh bien, je vais aller l'interroger aujourd'hui même, à l'instant. Prenez tout ce qu'il vous faut et envoyez chercher une voiture. »
Il y a loin du palais de justice à la maison du bois, mais le cocher de Monsieur Patrigent, aiguillonné par la promesse d'un magnifique pourboire, sut donner à ses maigres rosses le train de chevaux de sang. Antonin serait-il en état de répondre? Là était la question. Mais le directeur de la maison de santé eut promptement rassuré le juge d'instruction à cet égard. Le malheureux garçon de bureau s'était, en tombant, brisé le genou. Il souffrait horriblement, mais il avait toute la lucidité de son esprit. «
Puisqu'il en est ainsi, monsieur, dit le juge, je vous demanderai de me conduire près de cet homme, que je dois interroger. Mais il faut, si faire se peut, que personne ne soit à portée d'entendre sa déposition. »«
Oh, personne n'entrera, répondit le directeur. Il est dans une chambre à 4 lits, c'est vrai, mais il y est seul. »
Très bien, allons alors.
En voyant entrer le juge d'instruction, suivi d'un grand jeune homme maigre portant une serviette d'avocat, Antonin, qui sait son monde, devina ce dont il s'agissait.
Ah, dit-il, monsieur vient pour l'affaire de monsieur Berthemy.
Précisément. Monsieur Patrigent resta debout près du lit du malade, pendant que Sigolt, le greffier, s'établissait avec ses papiers sur une petite table. Lorsque le garçon de bureau eut répondu à toutes les questions d'usage, déclaré qu'il se nommait Antonin Poche, âgé de 40 ans, né à Cap-d'Urjac, Gironde, célibataire. « Voyons, mon ami, fit le juge, vous sentez-vous bien en état de me répondre ?»«
Parfaitement, monsieur.
C'est vous qui êtes allé, le 27 février, Cherchez à la banque les 350 000 francs qui ont été volés.
Oui, monsieur.
À quelle heure êtes-vous rentré?
Assez tard. J'avais eu affaire au crédit immobilier en sortant de la banque. Il devait bien être 5 heures lorsque je suis revenu à la maison.
Vous rappelez-vous ce qu'a fait monsieur Bertomy quand vous lui avez remis la somme?
Ne vous pressez pas de répondre. Rassemblez bien vos souvenirs.
Attendez. D'abord, il a compté les billets et il en a fait 4 paquets qu'il a serrés dans la caisse. Et ensuite, il a fermé la caisse. Et après, il me semble bien, mais oui, je ne me trompe pas. Oui, il est sorti. Il prononça ces derniers mots si vivement qu'oubliant son genou, il fit un mouvement qui lui arracha un cri.
Vous êtes bien sûr de ce que vous dites là? Demanda le juge d'instruction.
Le ton solennel de M. Patrigent parut épouvanté Antonin.
Sûr, répondit-il avec une hésitation marquée. Vous comprenez? Je parierais ma tête à couper, mais je n'en suis pas sûr autrement.
Il fut impossible de l'amener à préciser sa déposition. Il avait eu peur. Il se voyait déjà compromis. Pour un rien, il se serait rétracté. Les faits n'en étaient pas moins produits. Et en sortant, M. Patrigent disait à son greffier « C'est grave, très grave !» Fin du chapitre 5.
Section 6 de « Le dossier 113 » par Émile Gaborio. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 6. L'hôtel du Grand Archange, asile de Madame Gypsy, est le plus magnifique du quai Saint-Michel. Quand on paye d'avance et recta sa quinzaine, on y est considéré. Cette Madame Alexandre, qui a été une belle femme, est maintenant une femme puissante, terriblement sanglée dans ses corsets, toujours trop bien mise, aimant les chaînes d'or roulant en cascade sur les pentes de sa robuste poitrine. Elle a le vif encore et la dent blanche, mais hélas, le nez rouge. C'est que, de tous ses goûts, et Dieu sait si elle en a eu en sa vie, et de toutes sortes, un seul a survécu. Elle aime la bonne chair, largement arrosée. Pardon, elle adore aussi son mari. Et à l'heure où M. Patrigent revenait de la maison de santé, elle s'impatientait fort de ne pas voir son petit homme rentrer pour dîner. Elle allait même se mettre à table quand le garçon de l'hôtel cria « Voilà monsieur !» et Fanferlot en personne parut sur le seuil. 3 ans auparavant, Fanferlot tenait un petit bureau de renseignement clandestin. Madame Alexandre, marchande à la toilette sans patente, eut besoin de faire surveiller quelques créances suspectes. De là leur première relation. S'ils s'épousèrent pour de bon à la mairie et à l'église, c'est qu'il leur sembla qu'un sacrement serait comme un baptême qui laverait leur passé. De ce jour, Fanferlot céda son cabinet de recherche pour entrer à la préfecture, où il avait déjà été employé. Et Madame Alexandre renonça au commerce. Faisant une seule masse de leurs économies, ils louèrent et meublèrent l'hôtel du Grand Archange, et ils prospérèrent, estimés ou à peu près du voisinage, lequel ignorait les relations de Fanferlot et de la préfecture de police. « Comme tu rentres tard, mon petit homme » s'écria-t-elle, lâchant la cuillère à potage pour courir l'embrasser. Mais c'est d'un air distrait qu'il reçut ses caresses. « Je suis éreinté, dit-il. J'ai joué toute la journée au billard avec Évariste, le valet de chambre de M. Fauvel. Je l'ai laissé me gagner tant qu'il a voulu. Un garçon qui ne sait pas seulement ce que c'est qu'un massé. Enfin, j'ai fait sa connaissance avant-hier et je suis maintenant son meilleur ami. Si je veux entrer chez le banquier comme garçon de bureau à la place d'Antonin, je suis sûr de la protection de M. Évariste.
Quoi, tu serais garçon de bureau, toi?
Dame, s'il le faut absolument, pour y voir tout à fait clair dans la maison Fauvel et étudier mes personnages de plus près. Le valet de chambre ne t'a donc rien dit?
Rien du moins qui puisse me servir.
Et cependant, je l'ai retourné comme un gant. C'est un homme qu'on n'en voit pas, ce banquier. Il n'a pas un vice, me disait Évariste. Pas seulement un pauvre petit défaut sur lequel son valet de chambre puisse gagner 10 sous. Il ne fume pas, il ne boit pas, il ne joue jamais, il n'a pas de maîtresse. Un saint, quoi. Il est riche à millions et il vit petitement, chichement, comme un épicier. Il est fou de sa femme, il adore ses enfants. Il reçoit souvent, mais sort très rarement.
Sa femme est donc jeune?
Elle doit avoir dans les 50 ans. Madame Alexandre réfléchit un instant. T'es-tu informée, demanda-t-elle, des autres personnes de la famille?
Certainement.
Un des fils est officier, je ne sais où, n'en parlons pas, c'est le plus jeune. L'aîné, Lucien, qui vit avec ses parents, est, à ce qu'il paraît, une vraie demoiselle pour la sagesse.
Et la femme, et cette nièce dont tu m'as parlé?
Évariste n'a rien pu me dire sur leur compte. Madame Alexandre haussa les épaules. « Si tu n'as rien trouvé, fit-elle,
c'est qu'il n'y a rien. Et tiens, à ta place, sais-tu ce que je ferais? Parle, j'irai consulter monsieur Lecoq. » Fanferlot, à ce nom, bondit, comme si on lui tirait un coup de pistolet aux oreilles. « Je les conseille, » fit-il. « Tu veux donc que je perde ma place ? Si monsieur Lecoq se doutait seulement de ce que j'ai voulu faire. Quitte pas de lui dire ton secret. On lui demande son avis d'un air indifférent. On retient ce qu'il peut avoir imaginé de bien, et ensuite, on agit à sa guise. » L'agent de la sûreté parut peser les raisons de son épouse. « Tu as peut-être raison, » dit-il. « Et cependant, il est diablement malin, monsieur Lecoq, et fort capable de me deviner. »« Malin !» riposta madame Alexandre Piquet. « Malin ! C'est vous tous à la préfecture qui, à force de répéter ça, avez fait sa réputation. »« Enfin, » conclut Fanferlot, « je verrai. Je réfléchirai. Mais en attendant, que dit la petite ?» La petite, c'était madame Nina Tilsi. En venant s'installer au Grand Archange, la pauvre fille avait cru suivre un bon conseil. Et encore maintenant, Fanferlot ne s'étant pas montré, elle restait convaincue qu'elle avait obéi à un ami de Prosper. Lorsqu'elle avait reçu la citation de M. Patrigent, elle avait admiré l'habileté de la police, qui avait su, en si peu de temps, découvrir sa cachette. Car elle s'était établie à l'hôtel sous un faux nom, c'est-à-dire sous son vrai nom de Palmyre Chocareil. Habilement questionnée par l'ancienne marchande à la toilette, elle s'était livrée sans défiance et avait raconté toute son histoire. Et c'est ainsi, à peu de frais, que Fanferlot avait pu se poser près du juge en agent d'une habileté supérieure. « La petite, répondit madame Alexandre, est toujours là-haut ? Toujours, et elle ne se doute de rien. » Mais la retenir devient de plus en plus difficile. Je ne sais ce que lui a dit le juge. Elle m'est revenue hors d'elle-même. Elle voulait aller faire du tapage chez M. Fauvel. Ce tantôt, après un accès de colère, elle a écrit une lettre et l'a donnée à Jean pour la mettre à la poste. Mais je m'en suis emparé pour te la montrer. Quoi ? Interrompit Fanferlot. Tu as une lettre et tu ne me le dis pas ? Et elle renferme peut-être le mot de l'énigme. Vite, donne-la-moi. Sur l'ordre de son mari, l'ancienne marchande à la toilette ouvrit une petite chiffonnière et en tira la lettre de Madame Gipsy qu'elle lui présenta. « Tiens, lui dit-elle, sois satisfait. » En vérité, pour une ancienne femme de chambre, Palmyre Chocareil, devenue Madame Gipsy, n'avait pas une vilaine écriture. L'adresse de sa lettre, tracée en belle anglaise, était ainsi conçue. « Monsieur L. de Clameran, maître de forge à l'hôtel du Louvre, pour remettre à Monsieur Raoul de Lagorce, très pressé. Oh oh !» fit Fanferlot, accompagnant son exclamation d'un petit sifflement qui lui est habituel quand il croit avoir fait quelques trouvailles. « Oh oh ! Est-ce que tu vas l'ouvrir ?» interrogea Madame Alexandre. « Un peu !» répondit Fanferlot, en faisant sauter le cachet avec une merveilleuse dextérité. Il lut, et Madame Alexandre, penchée sur l'épaule de son petit homme, lui aussi. « Monsieur Raoul, Prosper est en prison, accusé d'un vol qu'il n'a pas commis, j'en suis sûr. Déjà, il y a 3 jours, je vous ai écrit à ce sujet. « Hein ? Comment ?» s'interrompit Fanferlot. « Cette péronnelle a écrit et je n'ai pas vu sa lettre. Mais mon bon petit homme, cette malheureuse peut avoir jeté sa lettre à la poste elle-même, lorsqu'elle est sortie pour aller au palais de justice. « C'est possible, en effet, » dit Fanferlot un peu calmé. Il reprit sa lecture. « Je vous ai déjà écrit à ce sujet et je n'ai pas de nouvelles. Qui donc viendra au secours de Prosper si ses meilleurs amis l'abandonnent ? Si vous laissiez cette lettre-ci sans réponse, je me croirais dégagé de certaines promesses que vous savez, et, sans scrupule, je raconterai à Prosper la conversation surprise par moi entre vous et M. de Clameran. Mais je puis compter sur vous, n'est-ce pas ? Je vous attendrai à l'hôtel du Grand Archange, après-demain, de 12h à 16h. Nina Gipsy. » Cette lettre lue, Fanferlot, sans mot dire, se mit à la recopier. « Eh bien ? » demanda Madame Alexandre, « qu'en dis-tu ? » Fanferlot réintégra délicatement la lettre recopiée dans son enveloppe, lorsque la porte du bureau de l'hôtel s'ouvrit brusquement, et le garçon par deux fois siffla « Psit, psit !» Fanferlot, avec une rapidité merveilleuse, disparut dans un cabinet noir qui ouvrait sur la salle à manger. Il n'eut pas le temps de refermer la porte. Madame Gipsy entrait. Hélas, elle était cruellement changée, la pauvre fille. Elle avait pâli, ses joues s'étaient creusées, ses lèvres avaient perdu leur provocant éclat, et ses yeux, brillants du feu de la fièvre, rougis par les larmes, étaient entourés d'un large cercle brun. En la voyant, Madame Alexandre ne put retenir un cri de surprise. « Comment, cher enfant, vous sortez ? Il le faut, madame, et je viens vous prier, si quelqu'un me demandait en mon absence, de vouloir bien faire attendre. Mais où voulez-vous aller, bon Dieu ? À 7h, malade comme vous l'êtes ? Madame Gypsy hésita un moment. « Oh, tenez, dit-elle enfin, je puis vous le confier à vous, si bonne pour moi. Lisez ce billet qu'un commissionnaire vient de me monter à l'instant. »«
Comment ? » fit Madame Alexandre abasourdie. « Un commissionnaire ? Chez moi, qui est monté chez vous ?
Qu'y a-t-il de si surprenant ? Oh, rien, rien !» répondit l'ex-revendeuse. Et très haut, pour bien être entendue du cabinet, elle lut. « Un ami de Prosper, qui ne peut ni vous recevoir ni se présenter chez vous, a absolument besoin de vous parler. Ce soir, lundi, trouvez-vous, 9 heures précises, dans le bureau des omnibus qui est en face de la tour Saint-Jacques. Et celui qui vous écrit s'approchera de vous et vous dira ce qu'il a à vous dire. Je vous indique ce lieu de rendez-vous pour bien éloigner de votre esprit toute crainte.
« Et vous allez à ce rendez-vous ? » s'écria Madame Alexandre.
« Certainement. Mais c'est une imprudence horrible, une folie, c'est un piège qu'on vous tend. »«
Eh, qu'importe, madame, » interrompit Gypsy. « Je suis assez malheureuse désormais pour n'avoir plus rien à redouter. »
Et sans vouloir entendre un mot de plus, elle sortit. Madame Gypsy n'était pas dans la rue, que déjà Fanferlot avait bondi hors de sa cachette. Le doux agent était blême de fureur et jurait comme un possédé. « 1 000 000 000 de tonnerres » criait-il. « Qu'est-ce donc que cette maison du grand archange, où on se promène aussi librement que sur une place publique ?»
L'ancienne marchande à la toilette, décontenancée, tremblante, ne savait où se mettre.
« A-t-on jamais vu chose pareille ?» poursuivait l'agent. « Un commissionnaire est venu et personne ne l'a vu. Comment s'y est-il pris pour s'introduire ainsi furtivement ?»«
Ah, je flaire là-dessous quelques gredineries.
Et vous, Madame Alexandre, vous, une femme intelligente, vous êtes assez simple pour détourner cette petite vipère de ce rendez-vous ?
Mais, mon ami,
quoi ? Vous n'avez donc pas compris que je vais la suivre et savoir ainsi ce qu'elle nous cache ?
Allons vite, aidez-moi ! Il faut qu'elle ne puisse pas me reconnaître !»
En un tour de main, Fanferlot, affublé d'une perruque et d'une barbe épaisse, ne se ressemblait plus. Il avait endossé une blouse et avait toutes les apparences d'un de ces ouvriers peu honnêtes qui cherchent de l'ouvrage en priant Dieu de n'en pas trouver. Quand il fut prêt, « As-tu ta carte et ton coup de poing ?» demanda Madame Alexandre, toujours pleine de sollicitude.
« Oui, oui, fais jeter à la poste la lettre de cette malheureuse à Monsieur de Clameron, et bonne garde !»
Et sans écouter son épouse qui lui criait « Bonne chance !» Fanferlot s'élança dehors. Madame Gypsy avait bien 8 ou 10 minutes d'avance, mais il rattrapa lestement sa distance. Il avait pris au pas de course la route que la jeune femme devait avoir suivie, et il la rejoignit vers le milieu du pont au change. Elle allait d'une allure indécise, tantôt très vite, tantôt à petits pas, en personne qui, impatiente de se rendre à un rendez-vous, est partie trop tôt et cherche à user le temps. Sur la place du Châtelet, elle fit 2 ou 3 tours, s'approcha des affiches du théâtre, s'assit un moment sur un banc, et enfin, à 9h15 à peu près, elle alla s'installer sur une des banquettes du bureau des omnibus. 1 minute après elle, Fanferlot entra. Mais, comme en dépit de sa barbe épaisse, il redoutait l'œil de Madame Gypsy, il alla se placer de l'autre côté du bureau, dans l'ombre. Singulier lieu de rencontre, pensait-il, tout en étudiant la jeune femme. Mais qui peut lui avoir donné ce rendez-vous ? À la curiosité que je lis dans ses yeux, à son inquiétude évidente, je jurerais qu'elle ignore qui elle attend. Le bureau, cependant, était plein de monde. À toute minute, des employés criaient à la destination de l'omnibus qui arrivait. Quantité de gens entraient et sortaient, qui réclamaient des numéros ou changeaient leur correspondance. À chaque nouvel arrivant, Gypsy tressaillait et Fanferlot se disait « Est-ce celui-là ? » Enfin, au moment où 9 heures sonnaient à l'hôtel de ville, un personnage entra, qui, sans demander de numéro au bureau, marcha droit à Madame Gypsy, la salua et s'assit près d'elle. C'était un homme de taille moyenne, assez gros, portant d'épais favoris d'un blond ardent sur une figure enluminée. Sa mise, qui était celle de tous les négociants aisés, n'offrait rien de remarquable, pas plus d'ailleurs que sa personne. Fanferlot le regardait de tous ses yeux. « Toi, mon bonhomme, pensait-il, quelque part que je te rencontre maintenant, je te reconnaîtrai. Et, ce soir même, en te suivant, je saurai qui tu es. » Par malheur, il avait beau prêter l'oreille, il n'entendait rien, absolument, de ce que se disait le nouveau venu et Madame Gypsy. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de tâcher de deviner à leur pantomime et au jeu de leur physionomie le sujet de leur conversation. Tout d'abord, quand le gros homme l'avait salué, la jeune femme avait eu l'air si surpris qu'il était clair qu'elle le voyait pour la première fois. Lorsque, s'étant assis, il lui eut dit quelques mots, elle se leva à demi avec un geste d'effroi, comme s'il eût voulu s'enfuir. Un regard seul suffit pour la faire se rasseoir. Puis, à mesure que parlait le gros monsieur, l'attitude de Gypsy,
trahissait une certaine appréhension. Elle fit un geste négatif, mais elle sembla se rendre à une bonne raison qui lui fut donnée. À un moment, elle parut près de pleurer, et presque aussitôt un sourire éclaira son joli visage. Enfin, elle étendit la main, comme si elle eût prêté un serment.
Mais qu'est-ce que cela signifiait ?
Fanferlot, sur sa banquette, se rongea les poings.
« Idiot que je suis !» se disait-il, « de m'être placé si loin !»
Il songeait à exécuter quelques manœuvres habiles pour se rapprocher, sans éveiller les soupçons, lorsque le gros monsieur se leva, offrit son bras à Madame Gypsy, qu'il accepta sans façon, et ensemble, ils se dirigèrent vers la porte. Ils avaient l'air si préoccupés l'un et l'autre que Fanferlot ne vit nul inconvénient à les suivre d'assez près. Sage précaution, car il y avait foule sur le boulevard. Arrivé sur la porte, il vit le gros homme Gypsy traverser le trottoir, s'approcher d'un fiacre, non loin du bureau des omnibus, et monter dans ce fiacre. «
Parfait !» grommela Fanferlot. « Je les tiens maintenant, inutile de se presser !»
Pendant que le cocher rassemblait ses guides, l'agent de la sûreté préparait ses jambes. Et lorsque la voiture s'ébranla, en trois sauts il fut derrière, décidé à la suivre jusqu'au bout du monde. Le fiacre remontait le boulevard de Sébastopol. Il allait bon train, mais ce n'est pas pour rien que Fanferlot a été surnommé l'écureuil. Les coudes collés au corps, ménageant bien sa respiration, il se maintenait. Pourtant, en arrivant au boulevard Saint-Denis, il commençait à s'essouffler. Et il ressentait une légère douleur au côté lorsque le fiacre, après avoir traversé la chaussée, s'engagea dans la rue du Faubourg Saint-Martin. Mais Fanferlot, qui à 8 ans polissonnait librement sur le pavé de Paris, est un homme de ressources. Il s'accrocha au ressort de la voiture, se souleva à la force des poignets et se maintint suspendu, les jambes appuyées sur l'essieu des roues de derrière. Il n'était certes pas à son aise, mais il ne courait plus le risque d'être distancé. « Maintenant, disait-il en riant dans sa fausse barbe, fouette, cocher !» Le cocher fouettait en effet, et c'est au grand trot qu'il monta la rampe assez dure de la rue du Faubourg Saint-Martin. Enfin, sur la place de l'ancienne barrière, le fiacre s'arrêta devant un marchand de vin. Le cocher descendit de son siège et alla se faire servir un canon. L'agent de la sûreté, lui, avait quitté son poste incommode, et, blotti dans le coignard d'une porte, il attendait à descendre le gros monsieur et Gypsy, prêts à s'élancer sur leurs traces. Mais, au bout de 5 minutes, il n'était pas encore descendu. « Que font-ils donc ?» pensa l'agent. Il s'approcha, non sans précaution. « Oh, déception ! La voiture était vide !» Ce fut comme un seau d'eau glacée tombant sur la tête de Fanferlot. Il restait là, planté sur ses 2 pieds, plus cristallisé que la femme de l'os. Quand il se remit un peu, au bout de quelques secondes, ce fut pour lâcher une 12aine de jurons à faire trembler les vitres du quartier. « Voler, disait-il, jouer, flouer, coller, rouler. Ah, nous le paierons !» En un moment, son esprit agile parcourut la gamme des éventualités probables et improbables. « Évidemment, murmurait-il, cet individu et Gypsy sont entrés par une portière et sortis par l'autre. La manœuvre est élémentaire. Mais s'ils l'ont employé, c'est qu'ils craignaient d'être suivis. S'ils craignaient d'être suivis, c'est qu'ils n'ont pas la conscience tranquille. Donc, il interrompit son monologue, parce que l'idée lui vint d'interroger le cocher, qui pouvait fort bien savoir quelque chose. Malheureusement, ce cocher, qui était de fort mauvaise humeur, refusa de rien dire, et même agita son fouet d'une façon si peu rassurante que Fanferlot jugea prudent de battre en retraite. « Ah ça !» se disait-il. « Est-ce que le cocher en saurait, lui aussi ?» Que faire cependant à 7 heures ? Il n'avait pas une idée. Tristement, il reprit le chemin du quai Saint-Michel. Et il était 11h30 au moins lorsqu'il sonna à sa porte. « La petite est-elle rentrée ?» demanda-t-il tout d'abord. « Non, mais voici 2 gros paquets à porter pour elle. » Lestement, avec une adresse supérieure, Fanferlot défit les paquets. Les paquets renfermaient 3 robes d'indienne, de gros souliers, des jupons très simples et des bonnets de linge. L'agent ne put retenir un mouvement de dépit. « Allons bon, fit-il, voici qu'elle va se déguiser maintenant. Pas ma foi, je m'y perds. » Certes, lorsqu'il descendait tout pensif les hauteurs du faubourg Saint-Martin, Fanferlot s'était bien juré qu'il ne raconterait pas à son épouse sa déconvenue. Mais une fois chez lui, une fois en présence d'un fait nouveau, de nature à dérouter toutes ses conjectures, ses considérations d'amour-propre s'évanouirent. L'agent de la sûreté avoua tout. Ses espérances si près de se réaliser, sa mésaventure incroyable, ses soupçons. Et longtemps, le mari et la femme restèrent à discuter, étudiant l'affaire sous toutes ses faces, cherchant une explication plausible. C'est qu'ils étaient bien décidés à ne se point coucher avant le retour de Madame Gypsy, dont Madame Alexandre se proposait de tirer quelques éclaircissements. Mais rentrera-t-elle ?
Là était la question. Elle rentra un peu après 1 heure, et lorsque déjà les époux désespéraient et commençaient à se dire « Nous ne la reverrons plus !» Au coup de sonnette, Fanfalo s'était glissé dans le cabinet noir, et Madame Alexandre était restée seule dans le bureau de l'hôtel. « Enfin vous voilà, cher enfant » s'écria-t-elle. « Il ne vous est pas arrivé malheur. Ah, j'étais dans une inquiétude mortelle !»« Merci de votre intérêt, madame, » répondit Gypsy. « Mais n'a-t-on rien apporté pour moi ?» Elle revenait tout autre qu'elle était partie, cette pauvre Gypsy. Elle était bien triste, mais non plus abattue. À sa prostration des jours précédents, avait succédé une ferme et généreuse résolution que décelait son maintien et l'éclat de ses yeux. « On a apporté des paquets que voici, » répondit Madame Alexandre. « Et ainsi, vous avez vu l'ami de M. Bertomy ?»« Oui, madame. Et même, ses conseils ont si bien modifié mes projets que j'aurai, demain, le regret de vous faire mes adieux. Je pars. » « Demain ? » fit l'ancienne marchande à la toilette. « Il y a donc quelque chose ? Oh, rien qui puisse vous intéresser !» Et ayant allumé sa bougie au bec de gaz, Madame Gypsy se retira après un « Bonsoir, bonne nuit !» des plus significatifs. « Que penses-tu de cette rentrée, Madame Alexandre ?» demanda Fanfarlo, sorti de sa cachette. « C'est à n'y pas croire. Cette petite écrit à Monsieur de Clameron pour lui donner rendez-vous ici, et elle ne l'attend pas. Évidemment, elle se méfie de nous. Elle sait qui je suis. » C'est alors cet ami du caissier qui l'a renseigné. Qui sait ? Tiens, je finis par croire que j'ai affaire à des voleurs très forts. Ils ont deviné que je suis sur leurs traces et ils veulent me dépister. On me dirait demain que cette coquine a le magot et qu'elle fuit avec, que je n'en serais pas surpris. Ce n'est pas mon avis, répondit Madame Alexandre. Mais écoute, je reviens à mon idée. Tu devrais voir Monsieur Lecoq. Fanfarlo resta un moment pensif. Eh bien, soit, s'écria-t-il, j'irai le voir, mais... uniquement pour l'acquit de ma conscience, car où je n'ai rien vu, il ne verra rien. Il a beau être terrible, il ne me fait pas peur. S'il s'amusait de me malmener et d'être insolent, je saurais le remettre à sa place. N'importe, l'agent de la sûreté dormit mal cette nuit, ou pour mieux dire, il ne dormit pas. Plus préoccupé de l'affaire Bertomy qu'un dramaturge de la pièce en germe dans son cerveau. À 6h30, il était debout. Il faut se lever matin si on veut rencontrer Monsieur Lecoq. Et... lesté d'une tasse de café au lait, il se dirigea vers la demeure du célèbre policier. « Certainement, Fanfarlo, dit l'écureuil, n'a pas peur du patron, comme il l'appelle. Et la preuve, c'est qu'il partit du grand archange, la tête haute, le chapeau posé de côté. Cependant, arrivé à la rue Montmartre, qu'habite Monsieur Lecoq, sa crânerie avait sensiblement diminué. Il eut quelques palpitations en s'engageant dans l'allée de la maison. Et il fit plusieurs pauses en montant l'escalier. Arrivé au 3e étage, devant une porte décorée des armes du célèbre agent, un coq, symbole de la vigilance, le cœur lui manqua presque, et il eut de la peine à se décider à sonner. La servante de M. Lecoq, une ancienne réclusionnaire taguée en carabinier, plus dévouée à son maître qu'un chien de berger, Janouille, enfin, vint l'ouvrir. « Ah » fit-elle en l'apercevant. « Vous tombez bien, monsieur l'écureuil. Le patron vous attend. » À cette annonce, Fanfarlo fut saisi d'une violente envie de battre en retraite. Pourquoi ? Comment ? Par quel hasard était-il attendu ? Mais, pendant qu'il hésitait, Janouille le saisit par le bras et, l'attirant à elle, le fit entrer dans l'appartement en disant « Voulez-vous prendre racine ici ? Allons, arrivez, le patron travaille dans son cabinet. » Au milieu d'une vaste pièce, bizarrement meublée, moitié bibliothèque de lettrés, moitié loge d'acteurs, assis devant un bureau, écrivait ce même personnage à lunettes d'or qui, dans les couloirs du dépôt, avait dit à Prosper Bertomy « Bon courage !» C'était M. Lecoq, sous ses apparences officielles. À l'entrée de Fanfarlo, qui s'avançait respectueusement, les chines en cerceau, il leva légèrement la tête, posa sa plume et dit « Ah, te voilà enfin, mon garçon. Eh bien, ça ne va donc pas, cette affaire Bertomy ?»« Comment, balbutia Fanfarlo, vous savez ? Je sais que tu as si bien embrouillé les choses que tu n'y vois plus rien, que tu es rendu. Mais patron, ce n'est pas moi !» M. Lecoq s'était levé et arpentait son cabinet. Tout à coup, il revint sur Fanfarlo. « Que penses-tu, maître l'écureuil ? » demanda-t-il d'un ton dur et ironique. « D'un homme qui abuse la confiance de ceux qu'il emploie, qui révèle de ce qu'il découvre juste assez pour égarer la prévention, qui trahit, au profit de sa seule vanité, et la cause de la justice, et celle d'un malheureux prévenu. » Fanfarlo, effrayé, avait reculé d'un pas. « Je dirais, essaya-t-il, je dirais. Tu penses qu'on doit punir cet homme et le chasser ? Et tu as raison. » Moins une profession est honorée, plus ceux qui l'exercent doivent être honorables. C'est toi cependant qui as trahi. Ah, maître l'écureuil,
Nous sommes ambitieux et nous essayons de faire de la police de fantaisie. Nous laissons la justice s'égarer de son côté et nous cherchons un autre. Il faut être un limier plus fin que tu n'es, mon garçon, pour chasser sans chasseur et à son compte. Mais patron, je vous jure, tais-toi. Voudras-tu me prouver que tu as tout dit au juge d'instruction comme c'était ton devoir? Allons donc. Pendant qu'on instruit contre le caissier, tu instruis, toi, contre le banquier. Tu l'épies, tu te lies avec son valet de chambre. Monsieur Lecoq était-il véritablement en colère? Fanferlot, qui le connaît bien, en doutait un peu. Mais avec le diable d'homme, on ne sait jamais à quoi s'en tenir. Si encore tu étais habile, poursuivait-il, mais non, tu voudrais être maître, et tu n'es même pas bon ouvrier. Vous avez raison, mon patron, fit piteusement Fanferlot, qui ne songeait plus à nier. Mais comment s'y prendre dans une affaire comme celle-ci, où il n'y avait pas une trace, pas une pièce de conviction, pas un indice, rien de rien? Monsieur Lecoq haussa les épaules. Pauvre garçon, fit-il. Sache donc que le jour où tu as été mandé avec le commissaire de police pour constater le vol, tu as, je ne dis pas certainement, mais très probablement, tenu entre tes deux grandes mains bêtes le moyen de savoir laquelle des clés, du banquier ou du caissier, avait servi à commettre le vol. Par exemple, tu veux des preuves? Soit. Te souviens-tu de cette éraillure que tu as relevée le long du coffre-fort? Elle t'a frappé, car tu n'as pas pu retenir une exclamation en l'apercevant. Tu l'as examinée soigneusement, à la loupe, et tu as pu te convaincre qu'elle était toute fraîche encore, toute récente. Tu t'es dit alors, et avec raison, que cette éraillure datait de l'instant du vol. Or, avec quoi avait-elle été faite? Avec une clé, évidemment. Cela étant, il fallait demander les clés du banquier et du caissier, et les étudier attentivement. L'une des deux devait avoir gardé à son extrémité quelques atomes au moins de cette peinture verte dont on enduit le fer des coffres-forts. C'est bouche béante que Fanferlot avait écouté cette explication. Sur les derniers mots, il se frappa violemment le front en s'écriant « Imbécile !»« Tu l'as dit !» reprit Monsieur Lecoq. « Imbécile ! Quoi ? Cet indice saute aux yeux et tu le négliges ? Et tu n'en tires aucune conclusion ? Là, cependant, est le vrai, le seul point de départ de l'affaire. Si je trouve le coupable, ce sera grâce à cette éraillure, et je le trouverai, je le veux. » De loin, Fanferlot, dit l'écureuil, médit volontiers de Monsieur Lecoq et le brave courageusement. Mais de près, il subit invinciblement l'influence qu'exerce sur tous ceux qui l'approchent cet homme extraordinaire. Les renseignements si précis, les minutieux détails qui venaient de lui être donnés, renversaient toutes ses idées. Où et comment Monsieur Lecoq les avait-il eus? « Vous êtes donc occupé de cette affaire, patron » demanda-t-il. « Probablement, mais je ne suis pas infaillible. Je puis avoir laissé passer quelques précieux indices. Prends une chaise et dis-moi tout ce que tu sais. On n'équivoque pas avec Monsieur Lecoq, on ne ruse pas. » Fanferlot fut complètement vrai, ce qui lui arrive rarement. Pourtant, sur la fin de son récit, pris d'un remords de vanité, il ne raconta pas comment, la veille, il s'était laissé jouer par Madame Gypsy et le gros monsieur. Le malheur est que Monsieur Lecoq n'est jamais informé à demi. « Il me semble, maître l'écureuil, fit-il, que tu oublies quelque chose. Jusqu'où as-tu suivi le fiacre vide ?» Fanferlot, en dépit de son aplomb, rougit jusqu'aux oreilles et baissa les yeux, ni plus ni moins qu'une pensionnaire prise en faute. « Quoi, patron ? » balbutia-t-il. « Cela aussi, vous le savez ? Comment avez-vous pu ?» Mais, une idée subite traversant son cerveau, il s'arrêta court, bondit sur sa chaise et s'écria « Ah ! J'y suis ! Ce gros monsieur à favori roux, c'était vous ?» La surprise de Fanferlot donnait à sa physionomie une si singulière expression que Monsieur Lecoq ne put s'empêcher de sourire. « Ainsi c'était vous !» reprit l'agent émerveillé. « C'était vous, ce gros homme que j'ai dévisagé, et je ne vous ai pas reconnu. Ah, patron, quel acteur vous feriez si vous le vouliez! Moi aussi je m'étais déguisé. Eh bien mal, mon pauvre garçon, c'est une justice à te rendre. Penses-tu donc qu'il suffise, pour être méconnaissable, d'une barbe épaisse et d'une blouse ? Et l'œil, malheureux, et l'œil, c'est l'œil qu'il faut changer. Là est le secret. Cette théorie du regard, en matière de travestissement, explique pourquoi le Lecoq officiel, qui rentrait des points au lynx, n'a jamais été rencontré dans les couloirs de la préfecture de police sans ses lunettes à branches d'or. « Mais alors, patron, disait Fanferlot, poursuivant son idée, vous avez confessé cette petite dont Madame Alexandre n'avait pu venir à bout? Vous savez pourquoi elle quitte le grand archange? Pourquoi elle n'attend pas Monsieur de Clameron? Pourquoi elle s'est achetée des robes d'indienne? Elle n'agit que d'après mes conseils. En ce cas, fit l'agent profondément découragé, il ne me reste plus qu'à avouer que je ne suis qu'un sot. Non, l'écureuil, reprit Monsieur Lecoq avec bonté. Non, tu n'es pas un sot. Tu as eu simplement le tort de te charger d'une tâche au-dessus de tes forces. As-tu fait faire un pas à l'affaire depuis que tu la suis ?
Non.
C'est que, vois-tu, incomparable comme lieutenant, tu n'as pas le sang-froid d'un général. Je vais te faire cadeau d'un aphorisme, retiens-le, et qu'il devienne la règle de ta conduite. Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier. Jamais, non, jamais, Fanferlot, t'avais vu le patron si causeur et si bon enfant. Se voyant découvert, il s'était attendu à un orage qui le jetterait à terre. Et pas du tout. Il en était quitte pour une averse qui lui lavait à peine la tête. La colère de Monsieur Lecoq se dissipait comme ces nuages noirs qui, par moments, menacent à l'horizon et qu'un coup de vent balaie. Pourtant, l'époux de Madame Alexandre était inquiet. Il se demandait si cette affabilité surprenante ne dissimulait pas qu'à carrière pensée. « Comme cela, patron ?» demanda-t-il. « Vous connaissez le coupable ?»« Pas plus que toi, mon garçon. Et même, pendant que tu as déjà une opinion toute faite, je ne sais encore que penser. »
« Tu m'affirmes que le caissier est innocent et que le banquier est coupable. Et j'ignore si tu as tort ou raison.
Arrivé après toi, j'en suis encore au préliminaire de mon enquête. Je ne suis certain que d'une seule chose, c'est qu'il y a une éraillure à la porte du coffre-fort. C'est de là que je pars. Tout en parlant, Monsieur Lecoq avait pris sur son bureau, déroulé et étalé, une immense feuille de papier à dessin. Sur cette feuille était photographiée la porte du coffre-fort de Monsieur Fauvel. Tous les détails étaient rendus avec la dernière exactitude. On reconnaissait bien les 5 boutons mobiles avec les lettres gravées et les 3 serrures assaillies de cuivre. Les rayures y étaient indiquées avec une admirable netteté. Voici donc, commença Monsieur Lecoq, notre éraillure. Elle va de haut en bas, à partir du trou de la serrure, diagonalement, et, remarque-le bien, de gauche à droite. C'est-à-dire qu'elle se termine du côté de la porte de l'escalier dérobé, conduisant aux appartements du banquier. Très profonde près de la serrure, elle finit en rayure à peine distincte.
Oui, patron, c'est bien cela, je vois.
Naturellement, tu as pensé que cette éraillure doit avoir été faite par l'odeur de la soustraction. Voyons si tu as eu raison. J'ai ici un petit coffret de fer, peint en vert comme la caisse de M. Fauvel. Le voici. Prends une clé et essaye de l'oreiller. Sans trop deviner le but que se proposait son patron, l'agent de la sûreté fit ce qu'il lui commandait, frottant vigoureusement sur le coffret avec le bout d'une clé. «
Diable ! » fit-il après 2 ou 3 tentatives. « Elle est dure à entamer, cette peinture !»«
Très dure, en effet, mon garçon. Et cependant, celle du coffre-fort est plus solide encore, je m'en suis assuré. Donc, les rayures que tu as relevées n'a pu être faite par la main tremblante d'un voleur laissant glisser la clé.
« Sapristi ! » exclama Fanferlot stupéfait.
« Je n'aurais pas trouvé cela !» C'est que c'est vrai, il faut, pour rayer le coffre, qu'on ait appuyé très fort.
Oui, mais pourquoi ?
Tel que tu me vois, je me creuse la tête depuis 3 jours, et c'est hier seulement que j'ai trouvé. Examinons ensemble si mes conjectures présentent assez de chances de probabilité pour devenir le point de départ de mon enquête. Monsieur Lecoq avait abandonné la photographie pour s'approcher de la porte qui, de son cabinet, donne dans sa chambre à coucher, et il en avait retiré la clé qu'il gardait à la main.
Avance ici, dit-il avant faire l'eau. « Place-toi là, à côté de moi.
Très bien. Supposons que je veuille ouvrir cette porte et que tu ne le veuilles pas. Lorsque tu me vois approcher la clé de la serrure,
quel est ton mouvement instinctif ?
J'appuie mes 2 mains sur votre bras que je tire à moi vivement, de façon que vous ne puissiez pas introduire la clé.
Justement. Allons, répétons ce mouvement. Marche !»
Fanferlot obéit, et la clé que tenait Monsieur Lecoq, détournée de la serrure, glissa le long de la porte et y traça une éraillure parfaitement nette, de haut en bas, diagonalement, reproduction exacte de celle qui figurait la photographie.
« Oh !»
fit sur 3 tons différents l'époux de Madame Alexandre.
« Oh ! Oh !»
Et il resta en contemplation devant la porte.
« Commences-tu à comprendre ?» demanda Monsieur Lecoq.
« Si je comprends, patron !
Mais un enfant devinerait maintenant. Ah, quel homme vous êtes !
Je vois la scène comme si j'y étais. Il y avait au moment du vol 2 personnes près de la caisse. L'une voulait s'emparer des billets, l'autre ne voulait pas qu'on y touchât.
C'est clair, c'est évident, c'est sûr.
Accoutumé à bien d'autres triomphes, le célèbre policier s'amusait beaucoup de la stupeur et de l'enthousiasme de l'agent.
« Voilà, tu t'emportes encore, lui dit-il doucement.
Tu prends pour certaine et comme prouvée une circonstance qui peut être fortuite et tout au plus probable.
« Non, patron, non !» s'écria Fanferlot. « Un homme comme vous ne se trompe pas. Le doute n'est pas possible.
À toi, alors, de tirer les conséquences de notre découverte. D'abord, ceci prouve que mon flair ne m'avait pas trompé. Le caissier est innocent.
Pourquoi ?
Parce que libre d'ouvrir et de fermer la caisse, quand bon lui semble, il n'aurait pas été chercher un témoin juste au moment de voler.
Bien raisonné.
Seulement, à ce compte, le banquier lui aussi est innocent. Réfléchis un peu. Fanferlot réfléchit, et toute son animation tomba.
C'est vrai, fit-il d'un air désespéré, c'est vrai. Que faire après cela ? chercher le troisième larron, c'est-à-dire celui qui a ouvert la caisse et pris des billets, et qui dort bien tranquille pendant qu'on soupçonne les autres. Impossible, les patrons, impossible! On ne vous a donc pas dit que M. Fauvel et son employé avaient seul une clé qui ne les quittait jamais? Pardon, la veille du vol, le banquier avait laissé sa clé dans son secrétaire. Et la clé ne suffit pas pour ouvrir, il faut encore le mot. Monsieur Lecoq impatienté haussa les épaules. « Quel était le mot ? » demanda-t-il. « Gypsy !» C'est-à-dire le nom de la maîtresse du caissier. « Eh bien, mon garçon, cherche. Le jour où tu auras trouvé un homme assez lié avec Prosper pour se douter de la circonstance du nom, assez familier chez M. Fauvel pour arriver jusqu'à la chambre à coucher, ce jour-là, tu tiendras le vrai coupable. Le problème sera résolu. » Égoïste comme tous les grands artistes, M. Lecoq n'a jamais fait d'élève et ne cherche pas à en faire. Il travaille seul. Il hait les collaborateurs, ne voulant partager ni les jouissances du triomphe, ni les amertumes de la défaite. Aussi, Fanferlo, qui sait son patron sur le bout du doigt, était-il confondu de l'entendre donner des conseils, lui qui jamais ne donne que des ordres. Même, il était si fort intrigué qu'en dépit des préoccupations supérieures, il ne put s'empêcher de témoigner sa surprise. « Il faut, patron, hasarda-t-il, que vous ayez à cette affaire un rude intérêt personnel pour l'avoir étudié ainsi. » Monsieur Lecoq eut un tressaillement nerveux qui échappa à son agent. Puis, ses sourcils se froncèrent, et c'est d'un ton dur qu'il répondit. « C'est ton état d'être curieux, maître l'écureuil ? Cependant, il ne faudrait pas l'être trop, tu m'entends ?» Fanferlot chercha à s'excuser. « Bien, bien !» interrompit Monsieur Lecoq. « Si je te donne un coup de main, c'est parce que cela me convient. Il me plaît d'être la tête pendant que tu seras le bras. Seul, avec tes idées préconçues, tu n'aurais jamais trouvé le coupable. » À nous deux, nous le trouverons, ou je ne suis plus Monsieur Lecoq. Nous réussirons, puisque vous vous en mêlez. Oui, je m'en mêle, et depuis 4 jours, j'ai appris bien des choses. Seulement, retiens bien ceci. J'ai des raisons pour ne point paraître en cette affaire. Quoi qu'il arrive, je te défends de prononcer mon nom. Si nous réussissons, il faut qu'on ne puisse attribuer le succès à toi seul. Et surtout, ne cherche jamais à en savoir plus long. Contente-toi des explications qu'il me plaira de te donner. Ces conditions ne semblèrent nullement fâcher l'agent de la sûreté. « Je serai discret, patron, » prononça-t-il. « J'y compte, mon garçon. Pour commencer, tu vas prendre cette photographie du coffre-fort et te rendre près du juge d'instruction. Monsieur Patrigent, je le sais, est aussi perplexe que possible au sujet du prévenu. Tu l'expliqueras, comme venant de toi, ce que je viens de te faire voir. Tu le répéteras mes démonstrations et ces indices, j'en suis convaincu, ils détermineront à faire relâcher le caissier. Il faut que Prosper soit libre. » pour que je commence mes opérations. C'est entendu, patron, mais devrais-je laisser voir que je soupçonne un coupable autre que le patron ou le caissier ? Nécessairement. La justice ne doit pas ignorer que tu vas suivre cette affaire. Monsieur Patrigent te chargera de surveiller Prosper. Réponds-lui que tu ne le perdras pas de vue. Je t'affirme, moi, qu'il sera en bonne main. Et s'il me demande des nouvelles de Gypsy ? Monsieur Lecoq hésita un moment. Tu diras, fit-il enfin, que tu l'as décidé dans l'intérêt de Prosper ? À se placer dans une maison où elle surveille quelqu'un que tu soupçonnes. Fanferlo, tout joyeux, avait roulé la photographie, pris son chapeau et s'apprêtait à sortir. Monsieur Lecoq le retint d'un geste. « Je n'ai pas achevé, » dit-il. « Sais-tu conduire une voiture et soigner un cheval ?»« Quoi, patron, vous me demandez cela ? À moi, un ancien écuyer du cirque Boutor ?»« C'est juste. Puisqu'il en est ainsi, dès que le juge t'aura congédié, tu rentreras chez toi vivement. » Tu te composeras une tête et un costume de valet de chambre de bonne maison, et tu te rendras, avec la lettre que voici, chez le placeur qui fait le coin du passage de l'Orme. Mais, patron, il n'y a pas de mais, mon garçon. Ce placeur te présentera à monsieur de Clameran, qui cherche un valet de chambre, le sien l'ayant quitté hier soir. Excusez-moi si j'ose dire que vous vous trompez, mais ce Clameran ne réunit pas les conditions indiquées, il n'est pas l'ami du caissier. Voilà que tu m'interromps déjà, dit monsieur Lecoq de sa voix la plus impérative. « Fais donc ce que je te dis, et ne t'inquiète pas du reste. Monsieur de Clameran n'est pas l'ami de Prosper, c'est vrai. Mais il est l'ami, il est le protecteur de Raoul de la Gorce. Pourquoi ? D'où vient l'intimité de ces deux hommes d'âge différents ? Il faut le savoir. Il faut savoir aussi ce que c'est que ce maître de forge qui habite Paris et ne s'occupe nullement de ses hauts fourneaux. Un gaillard qui a eu cette idée d'aller se loger à l'hôtel du Louvre, au milieu d'une cohue sans cesse renouvelée, est un gaillard difficile à surveiller. Par toi, j'aurai un œil dans sa vie. Il a une voiture, tu le conduiras. En moins de rien, tu connaîtras ses relations et tu pourras me rendre compte de ses moindres démarches. Vous serez obéi, patron. Encore un mot. Monsieur de Clameran est un gentilhomme fort susceptible et encore plus soupçonneux. Tu lui seras présenté sous le nom de Joseph Dubois.
Il te demandera les certificats. En voici trois qui attestent que tu as servi le marquis de Sermeuse, le comte de Commarin, et qu'en dernier lieu,
tu sors de la maison du baron de Vorchen.
Reparti pour l'Allemagne. Et ouvre l'œil, soigne ta tenue, surveille tes mouvements. Sers bien, mais sans excès. Et pas trop d'honnêteté, surtout, tu inspirerais des soupçons. Soyez tranquille, patron, mais où irai-je au rapport? J'irai te voir tous les jours. Jusqu'à nouvel ordre, défense de mettre les pieds ici, on peut te suivre. Si une circonstance imprévue survient, adresse une dépêche à ta femme. Elle me préviendra. Va, et sois prudent. La porte refermée sur Fanferlot, Monsieur Lecoq passa vivement dans sa chambre à coucher. En un clin d'œil, il eut dépouillé les apparences du chef de bureau, la cravate empesée et les lunettes d'or, et rendu la liberté à ses épais cheveux noirs. Le Lecoq officiel disparaissait, faisant place au vrai Lecoq. À celui que personne ne connaît, un beau gars, à l'air clair, à l'air résolu. Mais il ne resta soi qu'un instant. Assis devant une table de toilette, plus chargée de pâtes, d'essence, de couleurs et de postiches que la toilette d'une demoiselle du lac, il se mit à défaire de nouveau l'œuvre du créateur et à se recomposer une physionomie. Il travaillait lentement, maniant avec un soin extrême ses petits pinceaux. Mais, au bout d'une heure, il avait terminé un de ses chefs-d'œuvre quotidiens. Quand il eut fini, il n'était plus Lecoq. Il était le gros monsieur à favoris roux qui n'avait pas reconnu Fanferlot. « Allons, disait-il, en jetant à son miroir un dernier coup d'œil. Je n'ai rien oublié. Je n'ai presque rien laissé au hasard. Tous mes fils sont attachés, je puis marcher. Pourvu que l'écureuil ne perde pas de temps. » Mais Fanferlot était bien trop joyeux pour gaspiller une minute. Il ne courait pas. Il volait sur le chemin du palais de justice. Enfin, il allait donc pouvoir, à son tour, faire montre d'une perspicacité supérieure. Quant à se dire qu'il allait triompher avec les idées d'autrui, il n'y songeait pas. C'est presque toujours de la meilleure foi du monde que le jet se pavane avec les plumes du paon. L'événement, d'ailleurs, ne trompa point ses espérances. Si le juge ne fut pas pleinement et absolument convaincu, il admira tout au moins l'ingéniosité du procédé. « Voilà qui me décide, » dit-il en congédiant Fanferlot. « Je vais présenter à la chambre du conseil des conclusions favorables. Et demain, très probablement, le caissier sera relâché. » Et en effet, il se mit à rédiger une de ces terribles ordonnances de non-lieu qui rendent la liberté, mais non l'honneur, à l'homme accusé. Qui disent qu'il n'est pas coupable, mais qui ne disent pas qu'il est innocent. Attendu qu'il n'existe pas, contre le prévenu Prosper Pertomy, des charges suffisantes. Vu l'article 128 du Code d'instruction criminelle, déclarons qu'il n'y a lieu de suivre. Quant à présent, contre le dit, ordonnons qu'il sera extrait de la maison où il est détenu et qu'il sera mis en liberté par le gardien, etc. Lorsqu'il eut achevé, « Allons, dit-il à son greffier Sigolt. Voici un de ces crimes encore dont la justice n'a jamais le mot. Encore un dossier à déposer aux archives du greffe. » Et de sa main, sur la couverture, il inscrivit le numéro d'ordre. « Dossier numéro 113. » Fin du chapitre 6.
Section 7 de Le dossier 113 par Émile Gaborio. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 7. Il y avait 9 jours que Prosper Pertomy était en prison, au secret, lorsqu'un matin, un jeudi, le geôlier vint lui signifier l'ordonnance de non-lieu. On le conduisit au greffe, on lui rendit plusieurs petits objets qui lui avaient été enlevés quand on l'avait fouillé à son arrivée. Sa montre, un canif, quelques bijoux, et on lui fit signer une grande feuille de papier. On le poussa alors dans un corridor sombre, très étroit. Une porte s'ouvrit qui se referma sur lui avec un bruit sinistre. Il se trouvait sur le quai. Il était seul. Il était libre. Libre. C'est-à-dire que la justice se déclarait impuissante à le convaincre du crime dont on l'avait accusé. Libre, il pouvait marcher, respirer l'air pur, mais il allait trouver toutes les portes fermées à son approche. L'acquittement après les débats, c'est la réhabilitation. L'arrêt de non-lieu laisse planer sur celui qui a été arrêté un éternel soupçon. L'opinion a des rigueurs plus redoutables. Les secrets. En ce moment où la liberté lui était rendue, Prosper sentit si cruellement l'horreur de sa situation qu'il ne peut retenir un cri de rage et de haine. « Mais je suis innocent » cria-t-il. « Je suis innocent !» À quoi bon ? Deux passants qui suivaient le quai s'arrêtèrent pour le regarder. Ils le prenaient pour un fou. La scène était là, à ses pieds. La pensée du suicide traversa son esprit. « Non, dit-il, non, je n'ai même pas le droit de me tuer. Non, je ne veux pas mourir avant de m'être réhabilité. » Bien des fois dans sa cellule du dépôt de la préfecture, Prosper Pertomy avait répété ce mot « réhabilitation ».
ayant dans le cœur cette haine froidement réfléchie, qui donne la force ou la patience de briser ou d'user tous les obstacles, il se disait « Ah, que ne suis-je libre !» Il était libre, et à cette heure seulement, il se rendait compte des immenses difficultés de sa tâche. Pour chaque crime, il faut à la justice un criminel. Il ne pouvait désormais faire éclater son innocence qu'en livrant un coupable. Comment le trouver et le livrer ? Désespéré mais non découragé, il reprit le chemin de son logis. Mille inquiétudes l'assaillaient. Que s'était-il passé depuis 9 jours, qu'il était comme rayé du nombre des vivants ? Nul bruit n'était venu jusqu'à lui. Le silence des secrets est aussi terrible que celui de la tombe. Il allait lentement le long des rues, la tête baissée, fuyant le regard des gens qu'il croisait. Il allait donc, lui si fier, faire l'apprentissage du mépris. Il allait voir à son approche les figures devenir glaciales, les conversations cesser. Toutes les mains se retireraient quand il tendrait la sienne. Si encore il eût pu compter sur un ami. Mais quel ami le croirait quand son père, ce dernier ami des crises suprêmes, avait refusé de le croire ? Au plus fort de ces tortures les plus poignantes qu'on puisse imaginer, le nom de Nina Gypsy monta à ses lèvres. Il ne l'avait jamais aimée, la pauvre fille. Par moments, il l'avait haï. Mais, en ce moment, son souvenir avait pour lui des douceurs infinies. C'est qu'il se sentait aimé par elle. C'est qu'il était sûr qu'elle ne douterait pas, elle, quand il aurait parlé. C'est qu'il savait que la femme reste ferme en ses croyances. Fidèle au malheur, quand même. Elle qui n'allait pas toujours à la prospérité. Arrivé rue Chaptal, devant sa maison, au moment de franchir le seuil de la porte, il hésita. Il souffrait de cette timidité de l'honnête homme soupçonné. Il eût voulu ne jamais revoir une figure connue. Cependant, il ne pouvait rester là sur le trottoir. Il entra. À sa vue, le concierge eut une exclamation de joie. « Enfin, vous voici, monsieur » s'écriait-il. « Je disais bien, moi, que vous sortiriez de là, blanc comme neige. Quand j'ai lu dans les journaux qu'on vous accusait d'avoir volé, j'ai dit à tous ceux qui ont voulu l'entendre, « Mon locataire du troisième, un voleur ? Allons donc !» Les félicitations de cet homme, maladroite peut-être, mais sincère à coup sûr, impressionnèrent péniblement Prosper. Il voulut couper court à toute explication. « Madame est sans doute partie, » demanda-t-il. « Savez-vous où elle est allée ?»« Ma foi, non, monsieur. Le jour de votre arrestation, elle a envoyé chercher un fiacre. On a chargé dessus toutes ses affaires, et depuis, ni vu ni connu, nous n'avons plus entendu parler d'elle. » Ce fut pour le malheureux caissier un chagrin, ajouté à tous ses chagrins. « Et que sont devenus mes domestiques ?»« Partis aussi, monsieur. Votre père les a payés et renvoyés. Alors vous avez ma clé ?»« Non, monsieur. Quand votre père est sorti, ce matin à 8 heures, il m'a dit qu'il laissait dans votre appartement un de ses grands amis, que je devais considérer comme le maître, jusqu'à votre retour. Vous le connaissez sans doute. C'est un gros de votre taille à peu près, avec des favoris roux. » Prosper était aussi étonné que possible. Un ami de son père chez lui ? Qu'est-ce que cela voulait dire ? Cependant, il ne laissa rien voir de son étonnement. « Oui, je sais, » répondit-il, « je sais. » Et gravissant rapidement l'escalier, il sonna chez lui. L'ami de son père vint lui ouvrir. Il était bien tel que le concierge lui avait dépeint. Assez gros, rouge de figure, ayant la lèvre sensuelle, l'œil d'une vivacité extraordinaire, l'air bon enfant, la tournure commune. Le caissier ne l'avait jamais vu. « Charmé de faire votre connaissance, monsieur, » dit-il. Il était âgé prospère comme chez lui. Sur la table du salon, était un livre qu'il était allé prendre à la bibliothèque. Encore un peu, il lui fait les honneurs de l'appartement. « Je dois vous avouer, monsieur, » commença le caissier, « que vous êtes surpris de me trouver ici, n'est-ce pas ? Je conçois cela. Votre père se proposa de me présenter à vous, mais il a été forcé de repartir ce matin pour Beaucaire. J'ajouterai qu'il repartit convaincu, comme je le suis moi-même, que vous n'avez pas pris un sou à monsieur Fauvel. » À cette nouvelle d'un heureux augure, Prosper ne put retenir une exclamation de joie. « D'ailleurs, continua le gros homme, cette lettre de votre père, que je suis chargé de vous remettre, remplacera, je l'espère, une présentation. » Le caissier prit la lettre qu'on lui tendait, l'ouvrit, et à mesure qu'il lisait, sa figure s'éclairait, le sang remontait à ses joues blêmies. Sa lecture faite, il tendit la main au gros monsieur. « Mon père, monsieur, fit-il, me dit que vous êtes son meilleur ami. Il me recommande d'avoir en vous la confiance la plus absolue et de suivre vos conseils. C'est cela. Ce matin, votre brave homme de père me dit « Verduret, c'est mon nom, Verduret, mon fils est dans le pétrin, il faut l'en sortir. » J'ai répondu « Présent, et me voilà. » La glace est rompue, n'est-ce pas ? Alors, arrivons à la chose. Que comptez-vous faire ? Cette question ralluma toutes les colères du caissier. Ses yeux lancèrent des éclairs. « Ce que je compte faire, » répondit-il d'une voix frémissante, « je veux trouver le misérable qui m'a perdu, le livrer à la justice, me venger, enfin. » « Naturellement. Et avez-vous quelques moyens d'arriver à ce but,
aucun. Et cependant, je réussirai. Parce qu'un homme qui donne sa vie entière à une tâche, qui s'éveille chaque matin, voulant ce qu'il a voulu la veille, est sûr de réussir. Bien dit, monsieur Prosper. Et tenez, franchement, je m'attendais à vous trouver cette disposition. Et la preuve, c'est que j'ai réfléchi et cherché pour vous. Je tiens un plan. Pour commencer, vous allez vendre votre mobilier, quitter cette maison et disparaître.
Disparaître ? S'écria le caissier révolté. Disparaître ? Y pensez-vous, monsieur ? Ce serait m'avouer coupable. Ce serait autoriser tout le monde à dire que je me cache pour jouir en paix des 350 000 francs volés.
Eh bien, après ? Dit froidement l'homme au favori roux. Ne venez-vous pas de m'affirmer que le sacrifice de votre vie est fait ?
Le nageur habile, que des malfaiteurs jettent à l'eau, se garde bien de revenir immédiatement à la surface.
Il plonge au contraire. Il nage sous l'eau tant que sa respiration le lui permet. Il reparaît le plus loin possible. Il prend terre hors de vue. Et c'est quand on le croit perdu, noyé, qu'il surgit tout à coup et se venge. Vous avez un ennemi ? Une imprudence seule peut le livrer. Mais tant qu'il vous verra debout, il aura peur. C'est avec une sorte de soumission ébahie que Prosper écoutait cet homme, qui, tout en étant l'ami de son père, était pour lui un inconnu. Sans en avoir la conscience, il subissait l'ascendant d'une nature plus énergique que la sienne. Tout lui manquait. Il était heureux de trouver un appui.
« Je suivrai votre conseil, » répondit Prosper, après quelques instants de réflexion.
« J'en étais sûr, mon cher ami. Donc, nous faisons la lessive aujourd'hui. Et notez que le produit de la vente nous sera diablement utile. Avez-vous de l'argent ? Non. Il en faut cependant. Je savais si bien vous convaincre que j'ai fait venir un marchand de meubles. Il prend tout ici, en bloc, pour 12 000 francs, les tableaux exceptés. »
Malgré lui, le caissier eut un haut de cœur que remarqua M. Verduret.
« Oui, fit-il, c'est dur, je le sais, mais c'est nécessaire. Écoutez, ajouta-t-il d'un ton qui tranchait avec le reste de la conversation. Vous êtes le malade, et je suis le médecin chargé de vous guérir. Si je taille dans le vif, criez, mais laissez-moi tailler, là est le salut.
Taillez, monsieur, répondit Prosper, subissant de plus en plus l'ascendant.
Parfait, et passons, car le temps presse. Vous êtes l'ami de monsieur de Lagorce.
De Raoul ? Oui, monsieur, l'ami intime.
Alors qu'est-ce que ce particulier ?
La qualification de particulier sembla blesser Prosper.
« Monsieur de Lagorce, monsieur, répondit-il d'un ton piqué, est le neveu de monsieur Fauvel. C'est un tout jeune homme, riche, distingué, spirituel, et le meilleur et le plus loyal que je sache.
Fit monsieur Verduret. « Voilà un mortel orné de bien des qualités, et je suis ravi à l'idée que je vais faire sa connaissance. Car, il faut que je vous l'avoue, je lui ai écrit à votre nom un petit billet pour le prier de venir jusqu'ici. »
Et il a fait répondre qu'il viendrait.
« Quoi ? » s'écria Prosper étourdi.
« Vous pouvez supposer ? Oh, je ne suppose rien. Seulement, il faut que je voie ce jeune homme. Même, j'ai dans la tête, et je vais vous soumettre, un petit plan de conversation. » Un coup de sonnette coupa la parole à M. Verduret.
« Sacrebleu, dit-il, le voici. Adieu, mon plan. Où me cacher pour entendre et pour voir ?
Là, dans ma chambre, en laissant la porte ouverte et la portière baissée. »
Un second coup de sonnette retentit.
« J'y vais !» cria le caissier.
« Sur votre vie, Prosper ?» dit M. Verduret, d'un ton à faire pénétrer la conviction dans l'esprit le plus rebelle.
« Sur votre vie, pas un mot à cet homme de vos projets, ni de moi. Soyez pour lui découragé, faible, hésitant. » Et il disparut, pendant que Prosper courait ouvrir à Raoul. Le portrait de M. de Lagorce n'avait pas été flatté par son ami. Jamais plus heureuse physionomie ne fut au service d'un noble caractère. À 24 ans qu'il se donnait, Raoul en paraissait 20 à peine. De taille moyenne, il était admirablement pris. D'abondants cheveux châtain clair, bouclés naturellement autour de son front intelligent, la franchise et la fierté éclataient dans ses grands yeux bleus. Son premier mouvement fut de se jeter au cou du caissier.
« Pauvre cher ami » disait-il en lui serrant les mains. « Pauvre cher Prosper !»
Cependant, sous ces démonstrations affectueuses, perçait une certaine contrainte qui, si elle échappait au caissier, devait être remarquée par M. Verduret. Une fois assis dans le salon,
« Ta lettre, mon ami, poursuivit Raoul, m'a fait un mal affreux. J'ai été épouvanté, je me suis dit, devient-il fou ? Alors j'ai tout quitté, j'accours. »
Prosper semblait à peine entendre, préoccupé de cette lettre qu'il n'avait pas écrite. Que lui avait-on fait dire ? Qu'était-ce donc que cet homme dont il avait accepté le concours ?
« Manquerais-tu de courage ? » continuait M. de Lagorce. « Pourquoi désespérer ? À notre âge, il est temps encore de recommencer sa vie. Tu as des amis, quand même. Si je suis venu, c'est que je voulais te dire, compte sur moi. Je suis riche,
la moitié de ma fortune est à ta disposition. » Cette offre généreuse, faite en ce moment avec la plus noble simplicité, toucha profondément Prosper. « Merci, Raoul, » répondit-il d'une voix émue. « Merci. Malheureusement, tout l'argent de la terre ne me servira à rien en ce moment. Comment cela? Quels sont donc tes projets? Te proposerais-tu de rester à Paris? Je ne sais, mon ami, je n'ai pas de projet. J'ai la tête perdue. » « Je te l'ai dit, » reprit vivement Raoul, « il faut recommencer ta vie. Excuse ma franchise, c'est celle de l'amitié. Tant que ce vol mystérieux ne sera pas expliqué, rester à Paris est impossible. Et si on ne l'explique jamais? Raison de plus pour te faire oublier. Tiens, je causais de toi il y a une heure avec Clamerant. Tu es injuste envers lui, car il t'aime. À la place de Prosper, me disait-il, je ferai argent de tout, je partirai pour l'Amérique, je ferai fortune, et je reviendrai écraser de mes millions ceux qui m'ont soupçonné. » Ce conseil révolta la fierté de Prosper. Il n'éleva cependant aucune objection. Les paroles du saint inconnu qui écoutait en ce moment même lui revenaient à la mémoire. « Eh bien, » insista Raoul, « je réfléchirai, » murmura le caissier, « je verrai. Je voudrais savoir ce que dit M. Fauvel. Mon oncle, tu sais que depuis que j'ai décliné la proposition qu'il me faisait d'entrer dans ses bureaux, nous sommes presque brouillés. Voici un mois au moins que je n'ai mis les pieds chez lui. Mais j'ai eu des nouvelles.
Par qui?
Par ton protégé, le jeune Cavaillon. Mon oncle, depuis l'affaire, est, à ce qu'il paraît, plus consterné que toi. C'est à peine si on le voit dans les bureaux. On dirait qu'il relève de quelque terrible maladie. Et Madame Fauvel? Et... Le caissier hésita. Et Mademoiselle Madeleine? Oh, fit Raoul d'un ton léger, ma tante est toujours dévote. Elle fait dire des messes à l'intention du coupable. Quant à ma belle et glaciale cousine, elle ne saurait s'occuper de détails vulgaires, tout absorbée qu'elle est par les préparatifs du bal travesti que donne après-demain messieurs Jean Didier. Elle a déniché, m'a dit une de ses amies, une couturière de génie, inconnue, qui lui fait un costume de fille d'honneur de Catherine de Médicis, qui est une merveille. Il est certain que l'excès même de la souffrance, engourdissant la pensée, amène une sorte d'insensibilité. Prosper avait terriblement souffert. Cependant, ce dernier coup l'atterra. « Madeleine » murmura-t-il, « Madeleine !» Monsieur de la Gorse ne crut pas devoir remarquer l'exclamation. Il s'était levé. « Il faut que je te quitte, mon cher Prosper, » dit-il. « Samedi, je verrai ces dames au bal, et je te donnerai des nouvelles. D'ici là, du courage, et souviens-toi que, quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi. » Une dernière fois, Raoul serra les mains de Prosper avant de s'y retirer. Il devait être déjà dans la rue, que le malheureux caissier restait encore debout, à la même place, immobile, anéanti. Il fallut, pour le tirer de ses sombres méditations, la voix railleuse de l'homme aux favoris roux qui était venu se placer devant lui. « Voilà les amis !» disait M. Verduret. « Oui !» répondit Prosper avec amertume. « Et cependant, vous l'avez entendu, il m'a offert la moitié de sa fortune. » M. Verduret haussa les épaules d'un air de compassion. « C'est mesquin de sa part, dit-il. Que n'offrait-il, pendant qu'il y était, sa fortune entière ? Ces offres-là n'engagent pas. Cependant, je suis persuadé que ce joli garçon donnerait bien 10 beaux billets de 1 000 francs pour savoir l'océan entre vous et lui. Lui, monsieur, et pourquoi? Qui sait? Peut-être pour cette même raison qu'il l'a engagé à vous bien faire remarquer que depuis un mois, il n'a pas mis les pieds chez son oncle. C'est la vérité, monsieur, j'en suis sûr. Naturellement, répondit monsieur Verduret d'un air goguenard. Mais tenez, reprit-il sérieusement, en voici assez sur ce joli garçon. J'ai sa mesure, c'est tout ce que je voulais. Maintenant, vous allez, s'il vous plaît, changer de costume et nous irons ensemble rendre visite à M. Fauvel. » Cette proposition sembla révolter Prosper. « Jamais !» s'écria-t-il, avec une violence extraordinaire. « Non, jamais! Je ne saurais prendre sur moi de subir la vue de ce misérable !» Cette résistance ne surprit pas M. Verduret. « Je vous comprends, dit-il, et je vous excuse. Mais j'espère que vous reviendrez sur ce premier mouvement. De même que j'ai voulu voir M. de la Gorse, je veux voir M. Fauvel. Il le faut, entendez-vous? Êtes-vous faible à ce point de ne pouvoir vous contraindre 5 minutes? Je me présenterai comme un de vos parents. Vous n'aurez pas un mot à dire. S'il le faut absolument, fit Prosper. Si vous le voulez. Oui, je le veux. Allons, morbleu, un peu d'assurance, donc, et de la confiance. Vite, allez faire un brin de toilette, il se fait tard. J'ai faim. Nous déjeunerons en route, en causant. Le caissier venait à peine de passer dans sa chambre à coucher quand un nouveau coup de sonnette retentit. M. Verduret alla ouvrir. C'était le portier. Il tenait à la main un pli assez volumineux. « Voilà, dit-il, une lettre qu'on a apportée ce matin pour M. Berthemy. J'ai été, quand je l'ai revue, tellement saisi que je n'ai pas songé à la lui remettre. C'est tout de même une drôle de lettre, n'est-ce pas, monsieur ?» Lettre singulière, en effet. L'adresse n'était pas écrite à la main.
Les mots qui la composaient étaient formés avec des lettres imprimées, découpées soigneusement sur un livre ou sur un journal, et collées sur l'enveloppe.
« Oh !» fit M. Verduret. « Qu'est-ce ceci ?»
Il s'adressa au concierge.
« Asseyez-vous un instant ici, mon brave, dit-il. Je reviens. »
Il laissa le concierge dans la salle à manger et passa dans le salon dont il eut soin de refermer la porte. Prosper s'y trouvait. Il avait entendu la sonnette d'abord, puis un bruit de voix, et il venait savoir ce qu'il se passait.
« Voici ce qu'on a apporté pour vous, » fit M. Verduret.
Et, sans façon, il brisa l'enveloppe. Des billets de bande s'en échappèrent. Il les compta. Il y en avait 10. Prosper était devenu pourpre.
« Qu'est-ce que cela signifie ? » dit-il.
« Nous allons le savoir, » répondit M. Verduret. « Voici un mot joint à l'envoi. Ce billet, comme l'adresse, était composé de lettres et de mots imprimés, découpés et collés. Il était court mais explicite. « Mon cher Prosper, un ami qui connaît l'horreur de votre situation vous fait passer ce secours. Il est un cœur, sachez-le, qui a partagé toutes vos angoisses. Partez, quittez la France, vous êtes jeune, l'avenir vous appartient. Partez, et puis cet argent vous portez bonheur. »
À mesure que lisait à haute voix l'homme aux favoris roux, la colère de Prosper grandissait. Colère folle, car il ne savait comment s'expliquer les événements qui se succédaient, et il sentait sa raison s'égarer.
« Tout le monde veut donc que je parte, s'écria-t-il. C'est donc une conjuration. »
M. Verduret dissimula un sourire de satisfaction.
« Enfin, fit-il, vous ouvrez les yeux, vous commencez à comprendre.
Oui, mon enfant, il est des gens qui vous haïssent pour tout le mal qu'ils vous ont fait.
Oui, il est des gens pour qui votre présence à Paris serait une perpétuelle menace et qui veulent vous éloigner à tout prix.
Mais quels sont ces gens, monsieur? Dites-le-moi. Dites-moi qui se permet de m'envoyer cet argent. »
L'ami de M. Bertomy, le père, hocha tristement la tête. « Si je le savais, mon cher Prosper, répondit-il, ma tâche serait remplie, car je saurais alors qui a commis le vol dont vous avez été accusé. Mais nous allons chercher. Je tiens enfin un de ces indices qui deviennent tôt ou tard une charge accablante. Je n'avais que des déductions plus ou moins probables. J'ai maintenant un fait qui me prouve que je ne me trompais pas. Je marchais dans les ténèbres. À présent, j'ai une lueur pour me guider. »
M. Verduret, cet homme aux apparences triviales, à l'entrain facile du commis voyageur, trouvait, comme bon lui semblait, de ces accents impérieux qui imposent aux âmes faibles et dominent les esprits malades. Prosper, en l'écoutant, reprenait quelque assurance et sentait en lui renaître l'espoir.
« Il s'agit, poursuivait M. Verduret, de tirer parti de cet indice que nous livre l'imprudence de vos ennemis. Commençons par interroger le portier. » Il ouvrit la porte et appela.
« Eh, mon brave, avancez un peu, s'il vous plaît. »
Le concierge, homme fort poli, s'approcha en tortillant sa casquette, fort intrigué de l'autorité que s'arrogeait cet inconnu chez son locataire.
« Qui vous a remis le pli que vous venez de monter ?» demanda M. Verduret.
« Un commissionnaire qui m'a dit que la course était payée.
Le connaissez-vous ?
Je ne connais que lui. C'est le commissionnaire qui a ses crochets chez le marchand de vin du coin de la rue Pigalle. Allez me le chercher. »
Pendant que le concierge sortait en courant, M. Verduret avait tiré son calepin de sa poche et consultait alternativement et les billets de banque épars sur la table et une page toute couverte de chiffres. Son examen terminé.
« Ces billets, dit-il d'un ton décidé, ne sont pas envoyés par l'auteur de la soustraction.
Vous croyez, monsieur ?
J'en suis persuadé. À moins toutefois que ce voleur ne soit doué d'une pénétration et d'une prévoyance extraordinaire. Ce qui est certain, positif, c'est qu'aucun de ces billets de 1000 francs ne faisait partie des 350 qui ont été volés dans votre caisse.
Cependant, hasarda Prosper, qui ne s'expliquait pas la certitude de son protecteur,
cependant, il n'y a pas de cependant. J'ai là le numéro d'ordre de tous les billets.
Quoi ? Lorsque moi-même je ne l'avais pas ?
La banque l'avait, mon jeune ami, et c'est fort heureux. Quand on s'occupe d'une affaire, on doit tout prévoir et ne rien oublier. Ce n'est pas une excuse pour un homme d'esprit que de dire, quand il est tombé dans quelques bévues, « Tiens, je n'y avais pas pensé. J'ai songé à la banque. »
Si Prosper avait eu d'abord quelques répugnances à s'abandonner entièrement à l'ami de son père, ces répugnances, une à une, s'évanouissaient. Il comprenait que seul, à peine maître de soi, livré aux inspirations de son inexpérience, jamais il n'aurait eu la patiente perspicacité de ce personnage singulier. Lui cependant poursuivait, se parlant à lui-même, paraissant avoir absolument oublié la présence de Prosper.
Donc, l'envoi ne venant pas du voleur ne peut venir, c'est évident, que de l'autre personne, qui était près de la caisse au moment du crime, qui n'a pu l'empêcher et qui maintenant a des remords. La probabilité de deux personnes lors du vol, probabilité affirmée par les raillures, se change maintenant en certitude indiscutable. Ergo, j'avais raison.
Le caissier écoutait de toutes ses forces.
faisant des efforts d'imaginative pour comprendre quelque chose à ce monologue qu'il n'osait troubler. « Cherchons, continuait le gros homme, cherchons quelle peut être cette seconde personne, que sa conscience taquine et qui cependant n'a rien osé révéler. » Il prit la lettre et fort lentement, à 3 ou 4 reprises, la lut en scandant les phrases, en pesant tous les mots. « Évidemment, murmura-t-il, bien évidemment, cette lettre était composée par une femme. Jamais un homme, voulant rendre service à un autre homme et lui envoyant de l'argent, n'aurait mis ce mot « secours », blessant s'il en est. Un homme aurait mis « prêt », « subside », « fonds » ou n'importe quel équivalent. Mais « secours », jamais. Seule une femme, ignorante de cette susceptibilité masculine, a pu trouver toute naturelle l'idée que représente ce mot. Quant à cette phrase, il est un cœur, etc., elle ne peut avoir été pensée que par une femme. Prosper, cette fois, avait pu suivre le travail d'induction de son protecteur. « Vous vous trompez, je crois, monsieur, » dit-il. « Aucune femme ne peut être mêlée à cette affaire. » Monsieur Verduret ne releva pas l'interruption. Peut-être ne l'avait-il pas entendu. Peut-être ne lui convenait-il pas de discuter ses opinions. « Tâchons à présent, » poursuivait-il, « de découvrir où ont été découpés les mots qui composent ces 3 phrases. » Il s'approcha de la fenêtre et se mit à étudier les caractères collés dessus avec l'attention scrupuleuse d'un savant en husse qui cherche à déchiffrer un vieux manuscrit à demi effacé. « Petit caractère, » disait-il, « très délicat, très net, impression très soignée, papier assez mince et fortement satiné. Ces mots n'ont été découpés, par conséquent, ni dans un journal, ni même dans un volume de roman, ni même dans un livre de vente courante. Cependant, je les ai vus, ces caractères-là, je les connais. Dido en emploie souvent de pareil, ainsi que Mam, de Tours. » Il s'arrêta, la bouche demi-béante, la prunelle dilatée, faisant à sa mémoire un de ces énergiques appels qui concentrent la pensée sur un point unique. Tout à coup, il se frappa le front. « J'y suis, disait-il, j'y suis. Comment diable n'ai-je pas aperçu cela du premier coup d'œil? Tous ces mots ont été découpés dans un paroissien. Au surplus, nous allons bien voir. Il est un moyen de vérification. » Alors, délicatement, du bout de sa langue, il mouilla quelques-uns des mots collés sur le papier. Et lorsqu'il vit la colle assez humide, s'étant d'une épingle, il réussit à les détacher. À l'envers d'un de ces mots, un mot latin était imprimé. « Deus. Eh, eh !» fit-il avec un petit rire de satisfaction. « J'avais deviné. Papa Taboret, s'il était ici, serait content. Mais qu'est devenu le paroissien mutilé? L'a-t-on brûlé? Non, parce qu'un livre relié ne brûle pas comme cela. On l'aura jeté dans quelque coin. » Monsieur Verduret s'interrompit. Le concierge rentrait, ramenant le commissionnaire du coin de la rue Pigalle. « Ah, tu arrives à propos, mon garçon, » dit le gros homme de son air le plus ouvert. Et, présentant au commissionnaire l'enveloppe de la lettre, « Te souviens-tu, lui demanda-t-il, d'avoir apporté ce pli ici ce matin ? Parfaitement, monsieur, d'autant mieux que j'avais remarqué l'adresse. On n'en voit pas beaucoup de pareils, n'est-il pas vrai ? Je suis de ton avis. Et qui t'a chargé de la porter ? Est-ce un homme, est-ce une femme ? Non, monsieur, c'est un commissionnaire. » Cette réponse, qui égaya singulièrement le concierge, ne fit même pas sourire monsieur Verduret. « Un commissionnaire ? Poursuivit-il. « Connais-tu ce collègue ? Je ne l'avais jamais tant vu. Comment est-il ? Ma foi, monsieur, ni grand ni petit. Il était vêtu d'une veste de velours verdâtre. Il avait sa médaille. Diable, mon garçon, le signalement est vague et peut s'appliquer à beaucoup de commissionnaires. Seulement, ce collègue t'a peut-être dit qu'il l'avait chargé de cette commission. Non, monsieur, il m'a seulement dit, en me mettant 10 sous dans la main, « Tiens, porte cela rue Chaptal, au 39. C'est un cocher qui me l'a remis sur le boulevard. 10 sous. Je suis sûr qu'il a gagné sur moi. » Cette réponse sembla un peu déconcerter monsieur Verduret. Tant de précautions prises pour faire parvenir cette lettre à Prosper l'inquiétait et dérangeait ses plans. « Enfin, reprit-il, reconnaîtrais-tu le commissionnaire de ce matin ? Pour cela, oui, monsieur, si je le voyais. Alors attention, combien ton état te rapporte-t-il par jour ? Dame, monsieur, je ne sais pas au juste, j'ai un bon coin à aller. Enfin, mettons entre 8 et 10 francs par jour. Eh bien, mon garçon, je vais te donner, moi, 10 francs par jour, rien que pour te promener, c'est-à-dire pour chercher le commissionnaire de ce matin. Tous les soirs vers 8 heures, tu viendras à l'hôtel du Grand Archange, sur le quai Saint-Michel, me rendre compte de tes promenades et te faire payer. Tu demanderas à M. Verduret. Si tu trouves notre homme, je te donnerai 50 francs. Le marché te convient-il ? Peste, je le crois bien, bourgeois. Alors ne perds pas une minute, en route. » Bien qu'ignorant le plan de M. Verduret, Prosper commençait à s'expliquer le sens de ses investigations. Sa vie dépendait pour ainsi dire du succès, et cependant, il l'oubliait presque pour admirer la vivacité de ce singulier aide que lui avait légué son père, son sang-froid goguenard, la sûreté de ses inductions,
la fertilité de ses expédients, la rapidité de ses manœuvres. « Ainsi, monsieur, demanda-t-il, quand le commissionnaire se fut retiré, croyez toujours découvrir, dans tout ce qui m'arrive, la main d'une femme ? Plus que jamais, et d'une femme dévote qui plus est. Une femme, dans tous les cas, qui possédait au moins deux paroissiens, puisque pour vous écrire, elle en a mutilé un. Et vous avez quelque espoir de le retrouver ? Dites un grand espoir, mon cher Prosper, grâce à des moyens que j'ai de recherche immédiate, moyens que je vais utiliser sur le champ. » Il s'assit sur ces derniers mots, et rapidement, griffonna au crayon deux ou trois lignes sur une petite bande de papier, qu'il roula et glissa dans son gilet. « Vous êtes prêt ? » demanda-t-il, « pour notre visite à M. Fauvel ? » ?»« Oui. Alors partons, nous aurons bien gagné notre déjeuner. » Fin du chapitre 7.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. And up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. And up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.